Europe Soir Weekend,
Wendy Bouchard.
Avec de l'info, l'analyse, la culture et à la une, l'Allemagne qui resserre encore son dispositif de lutte contre l'épidémie. Angela Merkel a annoncé aujourd'hui la fermeture des écoles, des commerces non essentiels. Quelle leçon doit tirer la France de cette situation? On y vient à 18h15 avec notre correspondante Hélène Kohl et l'épidémiologiste Antoine Flao. Nous serons également au Havre ce soir qui lance demain une première campagne massive de dépistage contre le Covid, mais aussi à Bordeaux où les autorités s'organisent différemment à 19h15. Avec le maire de Bordeaux notamment. 18h30, le débat des grandes voix. Les politiques en France doivent-ils donner l'exemple à l'approche de la campagne de vaccination? Nous serons avec Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet et François Claus. 19h40, une chanson dans la tête avec l'album 100% festif de Patrick Sébastien.
Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir.
On va dire remède anti-morosité pour ceux qui fêteront en petit comité le nouvel an en France. Les anecdotes à suivre de Fabien Lecoeuvre qui a travaillé 10 ans avec ce roi de la fiesta. 19h15, notre coup de fil ce soir à Kevin Escoffier, le skipper naufragé du Vendée Globe, sauvé des eaux par Jean Le Cam et par la Marine Nationale et de retour en métropole. 19h30, Planète Sauvage, la fondation 30 millions d'amis se mobilise pour aider les refuges en hiver. Campagne de dons pour adoucir le quotidien des animaux abandonnés. Réa Hutin nous rejoint sur Europe 1. Mais voici d'abord le journal avec vous. Bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Car il est tout juste 18h au Carillon. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Voici les grands titres de l'info.
Ils étaient agglutinés à plus de 500 à l'intérieur. Il y avait énormément de bouteilles d'alcool, un DJ, beaucoup de produits hilarants. C'était une vraie soirée dans une boîte de nuit qui n'était pas autorisée.
500 personnes réunies pour une fête clandestine à Marseille, évacuées cette nuit par les policiers. Fête clandestine aussi à Strasbourg dans un local de restauration.
L'Allemagne qui serre donc la vis pour freiner les contaminations. Les écoles, les commerces non essentiels qui ferment à partir de mercredi à 10 jours de Noël.
Nous irons au Havre alors que débute demain une grande opération de dépistage pour 270 000 habitants, gratuits et sans rendez-vous.
Et puis on joue les prolongations à Bruxelles pour les négociations post-Brexit, même si Boris Johnson dit que le scénario du no deal reste le plus probable. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est une scène, Fabienne, qui paraît à peine croyable en pleine seconde vague de l'épidémie. Au moins 500 personnes ont été évacuées la nuit dernière par les forces de l'ordre. Elles participaient à une fête collective.
Oui, alors ça s'est passé à Marseille. C'est en plein cœur de la nuit que les policiers sont intervenus, Stéphane Frangy.
Oui, une seule patrouille arrive sur place. Dans un premier temps, trois agents seulement et le lieu qui est présenté comme une salle de réception de mariage habituellement est tout simplement transformé en boîte de nuit clandestine, assez peu regardante sur les normes sanitaires selon Rudy Mana du syndicat de police Alliance.
Ah bien sûr, il n'y a aucune personne que les collègues ont pu voir fuir en courant qui avait le masque. Une salle qui était prévue pour 150 à 200 personnes. Ils étaient agglutinés à plus de 500 à l'intérieur. Il y avait énormément de bouteilles d'alcool, il y avait des bars clandestins, un DJ, beaucoup de produits hilarants. C'était une vraie soirée dans une boîte de nuit, mais une boîte de nuit qui n'était pas autorisée.
D'après les témoignages recueillis sur place par les policiers, l'entrée était payante avec un ticket à 150 € pour deux personnes avec une bouteille d'alcool. Des relevés d'identité auraient été faits auprès des organisateurs du DJ présumé, et on apprend ce soir qu'une enquête est ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui.
Stéphane Frangy à Marseille pour Europe 1. Autre fête clandestine cette fois à Strasbourg. Là aussi, une procédure pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte alors qu'une centaine de personnes se trouvaient dans un local de restauration.
En Allemagne, maintenant, cette décision a été accueillie comme un choc à 10 jours de Noël. Décision pour freiner les contaminations. Les écoles, les commerces non essentiels vont fermer.
Fermeture dès mercredi et jusqu'au 10 janvier. Pas de rassemblement ou de feux d'artifice le 31 non plus. Des décisions annoncées ce matin par la chancelière Angela Merkel.
Les mesures de restriction en vigueur depuis le 2 novembre n'ont pas été suffisantes. Depuis quelques jours, nous avons de nouveau des chiffres de contamination en hausse et cette progression est exponentielle. Nous savons que tout ceci va avoir un impact sur les fêtes de fin d'année, mais nous sommes dans l'obligation d'agir et nous agissons donc maintenant.
Obligation d'agir, dit Angela Merkel. Et pour la professeure Anne-Claude Crémieux, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine, les Allemands n'ont pas eu d'autre choix, faute d'avoir trop tardé à fermer les bars et les restaurants.
Ils n'ont réussi à fermer les bars et les restaurants que début décembre. Et maintenant, ils se retrouvent dans une situation où l'augmentation des cas les oblige à passer au niveau supérieur. Et finalement, comme à chaque fois, on s'aperçoit qu'il vaut mieux prendre des mesures plus importantes au départ et relâcher que d'avoir des mesures qui sont insuffisantes et qui finalement nous obligent à courir derrière ce virus. Au fond, aujourd'hui, elle est obligée de fermer les écoles plus tôt que prévu parce qu'elle n'a pas réussi à faire fermer les lieux de contamination importants.
Le professeur Anne-Claude de Crémieux ce midi sur Europe.
Elle n'a pas réussi, Angela Merkel, et pourtant elle le voulait. C'est ce que nous dira Hélène Kohl. Depuis la mi-octobre, elle plaide pour ce discours, ce confinement strict, la chancelière allemande. Mais voilà, il y a les Länder aussi dans la prise de décision. On y revient également avec l'épidémiologiste Antoine Flao à 18h15. Et du côté de la France, Fabienne, c'est donc à partir de demain qu'est lancée une grande opération de dépistage anti-Covid, donc à Charleville-Mézières et puis au Havre.
Au Havre, où vous vous trouvez pour Europe 1, Jean-Gabriel Bourgeois. Alors expliquez nous concrètement comment ça va se passer. Et déjà, c'est gratuit et sans rendez-vous.
Eh bien, pendant 5 jours, les habitants du Havre et de l'agglomération vont pouvoir se rendre chez leurs pharmaciens, dans les cabinets médicaux, dans les laboratoires d'analyse pour se faire dépister. Mais pour cette opération, une vingtaine de centres de tests éphémères ont été installés. Des gymnases, des salles des fêtes ou des salles de concert, comme celle que dirige Jérôme Lebet dans le centre-ville.
Tout est prêt, oui, tout est prêt. Là, c'est l'étape où les gens, on va inscrire, entre guillemets, faire les relevés d'informations. Ici, les box de tests ensuite. Les gens font leur test ici, ensuite ils suivent les flèches oranges qui sont marquées au sol. La partie test, à proprement parler, va se réaliser sur les grandes tables blanches. Le plateau de la scène va se transformer en laboratoire de tests.
Des tests antigéniques, les résultats seront connus en 20 minutes. Ce sera gratuit, pas besoin d'ordonnance du médecin. Les autorités espèrent qu'un maximum de Havrais viendra à se faire dépister. Alors j'ai promené mon micro dans les rues du Havre pour savoir si les gens étaient intéressés. Et pour beaucoup, c'est oui. Elisabeth et Michel sont retraités.
Nous, on ira. On a un centre de dépistage tout près de la maison. Si on est positif, on s'isole, pas de problème.
On voit personne.
On voit personne.
On n'a pas de symptômes, mais on peut ne pas avoir de symptômes et l'avoir. Alors.
Et c'est justement la population asymptomatique qui est visée par cette campagne de test, une campagne massive qui va mobiliser pendant 5 jours 250 élèves infirmiers, une centaine d'agents de la ville, en plus des personnels médicaux classiques.
Jean-Gabriel Bourgeois au Havre pour Europe 1. Notez ce rendez-vous aussi mardi sur Europe 1. Le Premier ministre Jean Castex, invité exceptionnel de la matinale à 8h15.
Et pour ce qui concerne le dépistage au Havre à 19h15, c'est la conseillère municipale Agnès Firmin-Lebaudeau qui nous en dira davantage. Conseillère municipale au Havre, évidemment. À La Réunion, pas question de faire la fête sur les plages le 31.
Eh bien non, impossible cette année car il y a le couvre-feu à 20h et c'est un vrai soulagement pour les riverains des plages de l'ouest de l'île. Car cela pouvait provoquer des rassemblements de près de 15 000 personnes avec pas mal de nuisances. Écoutez le reportage de Charles L'Huillier de notre radio partenaire à La Réunion, Radio Freedom.
C'est ici, au milieu du lagon et du sable blanc, que 15 000 fêtards s'agglutinent. Conséquence, chaque 31 décembre, 4 tonnes de déchets en moyenne. L'annulation de ce réveillon cette année sonne donc comme une bénédiction pour les riverains, comme Daniel.
Des mégots de cigarettes, des capotes, il y a des slips. Parce que les gens, ils osent faire un cinéma au bord du lagon devant tout le monde. Comment voulez-vous faire un 31 avec des gens qui sont sales? C'est tellement dégoûtant.
Sandrine, qui pour la première fois depuis très longtemps ne fêtera pas le nouvel an sur la plage, ne comprend pas ses critiques.
On sait qu'il y a des gens qui font l'amour sur la plage. Tant mieux pour eux. C'était vraiment la fête en pleine nature.
Sauf que ces rassemblements répétés provoquent l'érosion du lagon. Moins 18 mètres de plage en l'espace de 50 ans. Carl Bellon, qui milite pour la sauvegarde du bord de mer, souhaiterait qu'il n'y ait plus de nouvel an ici, avec ou sans Covid.
Quand vous mettez 10 000 personnes dans le lagon, et c'est une période souvent où les coraux ont besoin de temps, c'est évident que vous faites énormément de mal au lagon. Même hors Covid, en une soirée, on ne peut pas se permettre de détruire tout ce que la nature prend le temps de faire sur un an.
Pas de fêtard cette fois-ci, et donc un travail facilité pour les pompiers. L'an dernier, les quelques 10 000 véhicules massés près des habitations ont retardé leur intervention chez une personne âgée victime d'un grave malaise.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h10 avec Fabienne Lemoyle pour vous informer. Et à la une de ce dimanche, Londres et Bruxelles qui prolongent encore le feuilleton du Brexit. Mais Boris Johnson pense que le scénario du no deal, Fabienne, reste le plus probable.
Alors on retrouve à Bruxelles notre correspondante Isabelle Horry. Ce matin encore, Isabelle, on pensait que ta décision allait tomber aujourd'hui. Finalement, on continue à négocier.
Et oui, une fois de plus, ce midi, la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique se sont brièvement parlé au téléphone. Et finalement, ils ont décidé de ne pas décider. Ursula von der Leyen a fait une courte déclaration.
Malgré l'épuisement qui guette après presque un an de négociations, et même si les dates butoirs ont été dépassées encore et encore, nous pensons qu'à ce stade, il est responsable de faire encore un effort.
Dans la foulée, les négociations ont déjà repris. À Bruxelles, on explique que Boris Johnson est maintenant plus impliqué, alors que ces dernières semaines, il s'est concentré sur le coronavirus. Pas de percée décisive pour autant, mais un travail qui se poursuit de façon intense sur la pêche et sur les futures règles de concurrence pour les entreprises. Il y a encore un espoir, veut croire l'entourage d'Ursula von der Leyen. D'autres sources se demandent quand même si ça continue uniquement parce que personne n'ose assumer publiquement un échec. En tout cas, les deux dirigeants n'ont pas fixé de nouvelles dates butoirs. En théorie, les négociations peuvent se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Si un accord est trouvé in extremis, le Parlement le voterait en janvier. C'est possible en droit international.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1 et donc à suivre.
Décidément, un changement de décor avec une pluie d'étoiles filantes cette nuit. C'est un spectacle magnifique que vous pouvez envisager si vous ne trouvez pas le sommeil, Fabienne.
Et c'est un phénomène annuel, les Géminides. Vous pourrez les voir entre 1h et 2h du matin. Alors comment écouter les conseils d'Olivier Lasvernias, le président de l'Association française d'astronomie?
C'est un essaim d'étoiles filantes qui est très visible. Il peut y avoir au maximum près d'une centaine d'étoiles filantes pendant une heure au milieu de la nuit. C'est lié à un astéroïde qui s'appelle Phaéton et qui effectivement, dans ses rotations autour du Soleil, laisse des filaments de poussière, un peu comme des traces de pneus sur un circuit de voiture, si vous voulez. Et tous les ans, à cette période-là, entre le 13 et 14 décembre, on rencontre des poussières parce qu'on traverse ces filaments. Pour voir les étoiles filantes, l'élément le plus important, évidemment, c'est d'abord qu'il fasse beau, mais ensuite, c'est de s'éloigner des lumière parasite et de s'installer confortablement, surtout comme ça au mois de décembre où il ne fait pas très chaud. Il faut par exemple s'installer sur une chaise longue, mettre une couverture assez solide pour regarder confortablement une dizaine ou une quinzaine de minutes. En tout cas, c'est un très beau spectacle à l'œil nu.
Effectivement, les conseils d'Olivier Lasvernias au micro de Diane Berger.
Pour suivre entre 1h et 2h du matin cette nuit, ces fameuses Géminides. Merci Fabienne Lemoyle. Et à samedi prochain pour l'info et pour tout terrain. Valérie Darmon, on s'arrête avec vous sur le temps de la semaine. Valérie.
Eh bien, plusieurs fronts pluvieux vont traverser la France, plus actifs dans le nord qu'ailleurs. Ce lundi, temps humide toujours sur un gros quart nord-ouest de la France. Le reste du territoire va rester à l'écart de cette dégradation. Mardi, une perturbation traverse la France à la mi-journée. Elle va se situer à l'est du Rhône et de la Saône jusqu'en Occitanie. Et à l'arrière, le temps sera plus variable avec des éclaircies et quelques averses sur la façade ouest. Mercredi, retour des pluies au nord-ouest, plus calme ailleurs, le temps qui sera instable près de la Méditerranée avec des averses. Jeudi, la perturbation arrivée le mercredi par l'ouest va traverser tout le pays et elle sera suivie d'un ciel variable. Vendredi, l'anticyclone présent sur l'Europe centrale va déborder sur la majeure partie de la France, apportant un temps plus calme et la douceur, eh bien, elle sera généralisée.
Si vous nous rejoignez, c'est l'actu des sports, 18h14. Bonsoir Axel May.
Bonsoir.
Et à la une d'abord, la colère des supporters nantais.
Oui, quelques centaines d'entre eux sont venus aux alentours du stade de la Beaujoire avant le match du FC Nantes contre Dijon. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Ces supporters dénoncent la gestion du président Valdemar Quitta alors que l'entraîneur Christian Gourcuff a été licencié cette semaine. Écoutez ce témoignage recueilli par le correspondant sport d'Europe 1 à Nantes, Loïc Folio.
Je suis là parce qu'il y en a marre. C'est quand même regrettable de voir le FC Nantes uniquement mentionné dans les médias pour des faits divers. C'est dommage de voir le nom du FC Nantes associé à des sujets d'évasion fiscale, de parquet national financier, et plus jamais à des sujets sportifs. Donc aujourd'hui, on a envie qu'il y ait une nouvelle page qui s'écrive avec des nouveaux dirigeants, un nouvel actionnariat, si possible en partie populaire. Moi qui suis un supporter depuis 40 ans, je ne suis pas un supporter ultra, mais aujourd'hui, c'est un peu facile comme formule, mais j'ai mal à mon FC Nantes, quoi.
Voilà, ce cri du cœur de Sébastien, supporter du FC Nantes.
Ouais, le FC Nantes qui, aujourd'hui sur le terrain, a fait match nul hein, partout face à Dijon. Vous nous donnez, Axel, les autres résultats de cette 14e journée de Ligue 1.
Et bien, défaite à domicile de Nice contre Rennes 1-0. Victoire de Lorient face à Nîmes 3-0 et de Brest face à Reims 2-1. Égalité entre Strasbourg et Metz de partout. En ce moment, Lille reçoit Bordeaux. À Lille, où l'on vous retrouve, Sébastien Boé. Bonsoir.
Oui, bonsoir. 59 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC mène 2-1. C'est Jonathan Mamba qui a ouvert le score à la 16e minute. Cinquième réalisation cette saison pour l'attaquant lillois. Très inspiré. Il est dans la surface de réparation bordelaise. Il est à l'arrêt. Il a deux défenseurs de Bordeaux face à lui. Il hésite et finalement, il tente une petite frappe enroulée qui touche le poteau et rentre ensuite dans le but de Benoît Costil et qui n'a pas bronché, scotché sur sa ligne. À la 30e minute, les Bordelais égalisent sur corner tiré par Ben Arfa. Et à la réception, c'est Bazic qui marque. Et juste avant la pause, eh bien, les Lillois profite aussi d'un corner pour reprendre l'avantage avec une tête de José Fonte, le défenseur central monté aux avant-postes. Voilà, score logique dans cette rencontre dominée par les Nordistes qui, en quart de succès, on le rappelle, cet après-midi, ont l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 et de passer devant le PSG qui va jouer ce soir contre Lyon.
Sébastien Boé, effectivement, PSG-Lyon, ce sera à 21h et on en reparlera plus en détail dans le journal des sports de 19h.
Absolument, une fin de saison en Formule 1 maintenant et pour une fois, ce n'est pas une Mercedes qui s'impose à Abu Dhabi.
Non, c'est le Néerlandais Max Verstappen sur sa Red Bull qui a remporté ce dernier Grand Prix de l'année au terme d'une course sans suspense, une course bidon, comme aurait dit celui qui a longtemps été la voix de la F1 sur Europe 1, Dominique Bressot. Verstappen termine premier devant les Mercedes de Bottas et Hamilton. Renault finit cinquième au classement constructeur cette saison.
Le handball, on n'oublie pas, les Françaises en bonne position pour atteindre les demi-finales du championnat d'Europe. Ça se passe en Danemark.
Oui, elles pourraient même être qualifiées de ce soir si le Danemark ne bat pas l'Espagne. Le prochain match des Bleus, le dernier du tour principal, c'est mardi contre la Suède. Et Olivier Crumbles, le sélectionneur, commence évidemment à envisager l'adversaire des demi-finales.
Bien sûr, on essaye d'anticiper au maximum le travail et on a eu une discussion sur les possibilités d'adversaires. La Norvège est sûre de se qualifier premier. Et derrière, il y a encore trois équipes qui peuvent se qualifier, l'Allemagne, la Hollande et la Croatie. Donc on travaille déjà sur ces adversaires-là. Mais le meilleur travail qu'on peut faire, c'est de se rapprocher au plus de la première place, parce que je pense que sans faire offense aux autres équipes, la Norvège, dans cette partie de tableau, est au-dessus.
Olivier Crumbles, et puis la Norvège, c'était un duel qu'on attendait en biathlon, cette fois-ci le relais masculin, la Norvège face à la France. Et bien finalement, lors de cette épreuve de Coupe du Monde en Autriche, victoire surprise des Suédois devant les Norvégiens, les Allemands. Les Français avec Fillon Maillet et Jacqueline se contentent de la 6e place.
Merci Axel May, c'était l'actu des sports, on vous retrouve à 19h10 sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h20 dans ce grand journal d'Europe 1, au soir d'un dimanche compliqué en Allemagne. Une nouvelle douche froide. La chancelière Merkel avait déjà fait comprendre à ses compatriotes que les fêtes de Noël relèveraient du strict minimum, 5 personnes maximum. Coup d'accélération dans la lutte anti-Covid. Dès mercredi, les écoles, les commerces non essentiels referment jusqu'au 10 janvier au moins. Bonsoir Hélène Kohl.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante permanente en Allemagne. Les Allemands s'attendaient-ils à ce nouveau tour de vis, Hélène ?
Oui, parce qu'Angela Merkel, en fait, ça fait des semaines qu'elle en parle. Elle était partisane dès la mi-octobre déjà d'un confinement beaucoup plus strict de ce qui a été appliqué quasiment un mois plus tard en réalité. Il faut dire que l'Allemagne est un pays fédéral et qu'elle ne peut pas décider toute seule. Elle est obligée de consulter les présidents des Länder, des 16 régions allemandes très puissantes. Et c'est vrai que le 16 octobre, quand elle a demandé déjà un premier confinement, à ce moment-là, l'Allemagne en était, au niveau des cas, à ce que la France connaissait à la fin du mois d'août. Donc, vous voyez, on était encore très, très, très en retrait par rapport à cette seconde vague. Et là, à ce moment-là, les présidents de région ont dit, on le sait, ce sont des petits mots qui ont été lâchés dans le huis clos de cette réunion. Angela Merkel est hystérique, elle panique. Et la réalité, c'est que l'Allemagne fera face beaucoup mieux que le reste de l'Europe. En réalité, la croissance a été exponentielle. Angela Merkel parlait de 19 000 cas par jour pour Noël. En réalité, la semaine dernière, on a atteint les 30 000 cas. Et donc, il fallait agir. Et ça fait une semaine maintenant que cette question de nouvelles mesures très restrictives, on est revenu quasiment à ce qui était la situation en mars-avril, ça fait une semaine qu'on en parlait, avec beaucoup cité en exemple le modèle français, figurez-vous.
Ah, c'est intéressant, on va y revenir. Antoine Flao, bonsoir à vous. Vous qui êtes épidémiologiste et directeur de l'Institut de Santé Globale à l'Université de Genève. Vous scrutez évidemment l'évolution du virus à l'étranger. Les autorités qui tardent trop en Allemagne, vient de nous dire Hélène Kohl, et voilà le résultat. Il faut vraiment une fermeté terrible face à ce virus.
Oui, bonsoir. Tout à fait. Je pense que c'est
l'exemple même finalement de tout retard qui est extrêmement préjudiciable bien sûr sur la situation sanitaire et puis en fait aussi sur la vie sociale et la vie économique, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on tarde et pourtant les Allemands quand même ont pris des décisions assez rapides mais un petit peu retardées par rapport aux Irlandais par exemple, les Irlandais qui ont commencé le 21 octobre à confiner de façon assez stricte avec une assignation à résidence comme les Français, ont aujourd'hui une situation qui est complètement assainie. Enfin, ils ont repris totalement le contrôle.
Oui.
Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en France, on voit redémarrer l'épidémie à peu près au même rythme que ce que voient les Allemands aujourd'hui. Et donc, ça, c'est évidemment beaucoup plus préoccupant parce que la France avait su reprendre le contrôle assez rapidement après la mise en place du confinement. Mais à nouveau, on voit la circulation du virus qui réaugmente beaucoup trop. Beaucoup trop brutalement.
Et ça veut dire, Antoine Flahault, qu'on ne serait pas à l'abri d'une nouvelle fermeture des écoles, des commerces comme nos voisins outre-Rhin. C'est possible, en tout cas c'est probable.
Oui, alors, c'est possible. Je dirais la chance ou l'opportunité que l'on a, c'est que dans une semaine, les écoles ferment, je crois, en France.
Absolument.
Et donc la fermeture de ces écoles pendant 15 jours à Noël ne sera probablement pas suffisante pour avoir la paix pendant tout l'hiver avec ces rebonds épidémiques, mais au moins ça devrait contribuer à
ralentir,
planir la courbe.
Oui. Hélène Cole, vous nous disiez qu'il y avait ces autorités qui ont trop tardé dans cette prise de décision. Y a-t-il une indiscipline du côté des compatriotes allemands dont on imaginerait au contraire qu'ils soient justement très rigoristes dans l'application de ces mesures ?
Disons que, comme le docteur Flahault vient de le dire, en fait, ce virus, il se glisse vraiment dans les interstices du relâchement et du renoncement. Donc, il y a eu un renoncement à une certaine prise de décision et puis il y a eu peut-être un relâchement. En réalité, les Allemands ont profité de toute la liberté qui leur a été laissée. Donc, le 2 novembre dernier, le début de ce confinement light, comme disaient les Allemands, pas vraiment un confinement, parce qu'en fait, en réalité, il y avait que les restaurants, les cafés, les musées, les piscines qui étaient fermées.
Oui.
Et ben, on a vu fleurir un peu partout des offres alternatives. Alors, le restaurant ouvre ses fenêtres maintenant et se transforme en stand de vin chaud. Voilà, ça a été un grand, grand point de discussion au cours des derniers jours, parce que c'est vrai qu'ici, à Berlin, on se retrouve avec quasiment tous les restaurants dans certaines rues, avec des gens qui s'attroupent à 4-5 personnes en même temps pour boire un vin chaud. Alors on enlève le masque évidemment, et puis un verre, deux verres, et avec l'alcool.
Et ça c'est autorisé, Hélène Cole, il n'y a pas de verbalisation.
Alors ça, jusqu'à présent c'était autorisé, et à partir de mercredi, ça sera donc interdit de vendre de l'alcool sur la voie publique. Mais vous voyez, ça arrivera seulement ce mercredi 16 décembre.
Oui. Vous disiez, Hélène, que la France devient un modèle en quelque sorte pour l'Allemagne, et j'aimerais Antoine Flahault que vous réagissiez à ces campagnes de dépistage massif qui dès demain vont arriver dans certaines villes et notamment au Havre, testées pour isoler, il faudrait que ça devienne une règle pour vous, Antoine Flahault.
Je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis pas très convaincu de ces dépistages massifs, mais je suis très intéressé et très. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on fasse cette expérimentation. C'est, vous savez, quand les scientifiques sont pas d'accord entre eux, le mieux, c'est de faire des expérimentations et des essais, et puis de regarder les résultats. Ce que l'on voit à la fois en Slovaquie ou à Liverpool où des dépistages massifs ont été faits, soit dans un pays entier pour la Slovaquie, soit pour des métropoles comme vous allez faire en France. N'est pas très convaincant. La situation de la Slovaquie est plutôt plus mauvaise que celle des pays alentours actuellement. Donc il n'y a pas eu, grâce au dépistage, une reprise en main de l'épidémie.
Oui.
Il est possible, et ce que disent ceux qui interprètent ces mauvaises réponses de la Slovaquie, c'est qu'ils aient fait cette campagne au mauvais moment, au moment du sommet de la vague, alors que les Français voudraient faire cette campagne plus tôt, au moment de la décrue épidémique.
Oui.
Mais voilà, c'est pas certain que ce soit très efficace. On le verra, l'expérimentation permettra de le dire.
En effet, observera. Hélène Cole, c'est prévu, ces campagnes de dépistage massif aussi en Allemagne ?
Alors, c'est pas prévu de manière très organisée par l'État, mais c'est vrai qu'il y a une forte incitation. En fait, les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, si vous voulez, Angela Merkel l'a très bien dit, c'est trop tard pour éviter les malades de Noël.
Oui.
Les gens qui seront malades à Noël, ils se seront contaminés avant l'entrée en vigueur de ces mesures. En revanche, ce qu'on veut, c'est qu'entre le 16 décembre et le 24 décembre, la population observe une période d'auto-quarantaine, si vous voulez, une sorte d'observation. Et là, s'il y a l'apparition de virus, effectivement, on se fait dépister ou on prend le temps pendant ces 8 jours d'aller faire des dépistages avec des tests rapides pour être sûr, au moment des retrouvailles avec la famille, alors qu'ils seront aussi restreintes, hein, puisque c'est 5 personnes maximum, eh bien qu'on ne va pas contaminer le papy, la mamie, c'est la grand-tante, etc. Et pareil, quand on ressortira du congé de Noël, qui dure jusqu'au 24-26, eh bien de nouveau une incitation à rester en auto-quarantaine pendant au moins jusqu'au 10 janvier pour voir s'il n'y a pas de nouveau l'apparition de symptômes. Alors le problème, c'est comment est-ce que ça va être appliqué. Voilà, c'est exactement ça. Et on le voit, vous avez parlé de la discipline des Allemands. Globalement, les gens ont essayé de profiter au maximum de la liberté, mais il y a quand même ce mouvement des récalcitrants, ce mouvement des gens qui ne croient pas à la dangerosité de ce virus qui est en Allemagne bien installé. Alors certes, ça correspond seulement peut-être à 5-10% de la population, mais dans certaines régions, par exemple dans l'est de l'Allemagne, en Saxe, c'est un mouvement qui est porté par le parti d'extrême droite.
Merci,
et
Hélène.
C'est très surprenant de voir que les régions où on vote le plus à l'extrême droite aujourd'hui sont celles qui dérapent.
Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage allemand et européen avec vous, Hélène Kohl et Antoine Flahaut, nos invités.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h31 sur Europe 1, c'est l'heure du Fil Info. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Des fêtes clandestines en plein confinement. 500 personnes ont été évacuées la nuit dernière dans le 14e arrondissement de Marseille. À Strasbourg, la police est également intervenue dans une soirée à laquelle participaient une centaine de personnes. Autre fête sauvage à Nantes, là aussi une centaine de personnes. Des enquêtes pour mise en danger de la vie d'autrui ont été ouvertes. Grande campagne de dépistage à partir de demain au Havre et à Charleville-Mézières, une stratégie pour éviter des transmissions, ces deux villes étant très touchées par la deuxième vague. L'Allemagne se confine avant Noël. À partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier, les commerces non essentiels ainsi que les écoles et les crèches seront fermés. Le pessimisme de Boris Johnson, même si les négociations pour trouver un accord commercial post-Brexit continuent avec l'Union européenne, le Premier ministre britannique estime qu'un échec des discussions reste le scénario le plus probable. Emmanuel Macron rencontre demain la Convention citoyenne climat, un rendez-vous qui s'annonce vif, ses membres craignant un éventuel détricotage de ses propositions contre le réchauffement climatique.
Merci Sophie Tussaud. On commence la semaine dans le calme météo, Valérie Darmon.
La perturbation d'aujourd'hui se décale très lentement vers l'est, donnant des pluies faibles en matinée des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes, jusqu'en Champagne, jusqu'aux Ardennes, en passant par la région centre et par le bassin parisien. Elle s'étendra l'après-midi du nord de l'Aquitaine aux Ardennes. À l'ouest, le ciel restera chargé, notamment sur la Bretagne et la Normandie, avec quelques ondées. Les nuages seront toujours nombreux du sud-ouest à l'est de la France et les entrées maritimes assombrissent le ciel du Languedoc-Roussillon, amenant même de faibles précipitations sur le relief. Le vent souffle à 80 km/h sur les côtes de la Manche et le vent d'Otan dans son domaine à 70. Les maximales sont en légère hausse, elles vont poursuivre leur hausse tout au long de la semaine sur la moitié est du pays avec 8 à 13 degrés, alors qu'il fera 12 à 15 à l'ouest, localement 17 sur le Pays basque et en Corse.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
En débat jusqu'à 19h avec nous ce soir, les grandes voix d'Europe 1, la journaliste politique Laetitia Krupa est là, le grand reporter, rédacteur en chef Maison, François Clos également, le spécialiste en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, complète ce trio. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir
Wendy.
On en parlait à l'instant avec Hélène Kohl, Angela Merkel traitée d'hystérique mi-octobre lorsqu'elle voulait imposer un confinement plus sévère à sa population. Et voilà le résultat, les Allemands mis au pied du mur avec ce tour de vis musclé, trop de relâchement, pas assez de contrôle. Cela nous enseigne que décidément cette épidémie impose une vigilance extrême et nous y reviendrons. En ce sens, que pensez-vous de ces campagnes de dépistage massif, ces opérations en parallèle de vaccination à grande échelle du Royaume-Uni aux États-Unis dans les heures qui viennent? Là-dessus, nous vous entendons aussi.
Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Et d'abord vos coups de gueule, vos coups de cœur, cela devient un petit rituel. Je vais commencer avec vous Laetitia Krupa, coup de cœur ce soir pour une jeune femme.
Coup de cœur pour Greta Thunberg et surtout la constance de son combat. Jeudi soir, elle a posté une vidéo à l'occasion des 5 ans de l'accord de Paris, vidéo qui a été relayée par le Guardian. Je vous propose d'en écouter juste le début.
Mon nom est Greta Thunberg et je vous invite à faire partie de la solution.
Pas mal, voilà. La formule.
Oui, c'est le message de Greta Thunberg. Vous savez, c'est un petit peu sur le modèle de la théorie du colibri de Pierre Rabhi, c'est-à-dire que chacun, à notre petit niveau, on peut participer à une action collective. Et avant l'action, Wendy, c'est la prise de conscience qui est le plus important. Et c'est ça le combat de Greta Thunberg. C'est vendredi où le monde entier a marché pour le climat. Ça doit normalement servir à précéder l'action, c'est-à-dire qu'on doit comprendre l'urgence climatique dans laquelle la planète est plongée. Or, cette fois-ci encore, la jeune Suédoise sermonne les dirigeants du monde entier en affirmant qu'ils sont dans le déni complet. Et finalement, elle demande à nouveau de ne plus regarder 2030 ou 2050 comme les horizons, mais d'agir en urgence parce qu'il y a une crise. Et si on regarde la crise du coronavirus que l'on est en train de traverser, on peut faire un parallèle. Il y a crise, donc il faut prendre des mesures d'urgence. Elle est suivie sur Twitter par plus de 4 millions de followers.
C'est plus que Cyril Hanouna,
c'est pas mal,
ça.
Hein, c'est plus que Cyril.
C'est, techniquement, c'est moins que Cyril Hanouna. Il en a 6 millions.
Ah mince.
Bon. Comme Emmanuel Macron.
Comme Emmanuel Macron. Macron est un peu plus. 6 millions 5.
Bon, la vidéo, elle a fait 465 000 vues. C'est pas mal hein, pour cette égérie de la cause climatique conspuée de toutes parts. Je vous passe tout le lot de critiques qu'elle a charriées. Encore une fois, en cette fin de semaine, en tout cas, Emmanuel Macron sur Twitter, lui, a posté une petite rétrospective en images de tous ses engagements avec un tweet assez laconique, l'accord de Paris à 5 ans, 2 points, continuons. Et il a aussi salué quand même le retour des États-Unis en disant, attention, l'action doit être immédiate. Est-ce que c'est un clin d'œil à Greta Thunberg ? Je ne crois pas du tout. Mais on verra bien ce qu'il dit demain aux citoyens de la Convention, justement, pour le climat.
Eh oui, citoyens qui voient leur proposition, les 150, s'effilocher un petit peu. Hein. Il y en a 146 qui seront retenus, 40% traduites dans un projet de loi qui est en cours d'écriture. Et puis, le gouvernement promet que les 60% seront traités sous forme d'arrêté ou dans le droit européen. Un petit mot quand même, Philippe Moreau-Chevrolet ou François Clos, sur cette Convention citoyenne. C'est l'essence même aussi de la démocratie, nous disait hier Laurence Toubiana, qui déplorait déjà que ce soit détricoté, Philippe Moreau.
C'est la promesse d'origine du candidat Macron. C'est on va être en marche, on va faire bouger les institutions, on va dépoussiérer la politique et faire venir des gens, des vrais gens à qui on va donner du pouvoir. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des citoyens simplement tirés au sort qui vont décider de l'avenir de l'écologie en France. Sachant tout le poids des lobbies, tout le poids des résistances, à la base, c'était plutôt une bonne idée. Sauf qu'il avait promis qu'il n'y aurait pas de filtre, pas d'intermédiaire, pas de requalification, et il y a eu des filtres, des intermédiaires et des requalifications.
Oui, c'était un vœu pieux, parce que la démocratie directe, on le sait, elle a été tentée, elle est compliquée. À la décharge de tout ça, c'est que la plupart des mesures ont été quand même prises avant le Covid, et que cela a compliqué la tâche, évidemment, dans le contexte de... Alors, peut-être qu'il faudrait profiter de cette décroissance pour justement les appliquer encore plus, mais je ne suis pas sûr que la réflexion aille dans ce sens.
Laetitia ?
La promesse d'Emmanuel Macron, pour être vraiment précis, parce que depuis qu'il a dit ça, on n'arrête pas de gloser sur lui et la Convention citoyenne, il avait dit qu'il transmettrait sans filtre, sans filtre, mais pas qu'il l'adopterait sans filtre.
Alors,
c'est la règle avec les politiques dans ce genre de configuration. Et il faut toujours regarder les petits caractères. C'est comme les polices d'assurance.
Voilà.
Ne vous faites pas avoir, regardez les petits caractères.
Philippe Moreau-Chevrolet, votre coup de cœur ce soir.
Moi, c'était sur une thématique qui est celle de l'échec. Et moi, je me suis interrogé, pourquoi est-ce qu'on a eu un premier échec en n'arrivant pas à anticiper la première vague, mais aussi un deuxième en n'anticipant pas la deuxième vague ? Pourquoi est-ce qu'on a eu l'échec des masques et on a re-eu l'échec des tests ? Peut-être demain, et on n'espère pas, l'échec de la vaccination. Qu'est-ce qui fait qu'on reproduit nos échecs ? Il y a deux jeunes journalistes qui ont une trentaine d'années tous les deux, jeunes papas, c'est pas un hasard, parce que dès qu'on a des enfants, on est bien familier avec la notion d'échec, en tout cas davantage, qui sont Laurent David Samama, qui est une grande plume pour Vanity Fair ou pour GQ, qui a écrit « L'éloge de la défaite », et Quentin Périnel, qui travaille pour Le Figaro, qui lui a écrit « Et si on parlait plutôt de mes succès ?» où il essaye d'interviewer toutes les personnalités françaises sur leur rapport à l'échec. Et moi, j'en tire deux grandes conclusions qui sont importantes et intéressantes pour la crise du Covid qu'on est en train de vivre. La première grande conclusion, c'est que cette génération-là de trentenaires, au fond, peut-être qu'elle est plus à même de comprendre l'échec et de s'adapter puisqu'elle a eu un échec à l'intégration économique, c'est ce que dit Laurent David Samama, un échec aussi climatique, ils voient bien, ils vivent la crise climatique et ils sont beaucoup plus conscients que les générations plus âgées, d'où le hockey boomer qui est devenu célèbre aujourd'hui. Et puis la deuxième grande leçon, c'est qu'il faut absolument que les élites françaises arrivent à parler d'échecs, arrivent à reconnaître leurs échecs. Et ça, c'est dans les deux livres, c'est assez frappant. C'est la difficulté qu'ont les élites, notamment politiques, à dire « bah oui, on a échoué en fait, on n'a pas su empêcher cette crise du Covid ». On n'a pas su gérer les masques, en plus on vous a menti. On n'a pas su gérer les tests. Reconnaître ces échecs pour qu'on puisse construire dessus, ce serait le début de la sagesse et l'espèce de règle française qui veut qu'on admette jamais, jamais, jamais qu'on a commis un échec, qu'on a enregistré une défaite. C'est mortifère parce que ça ne permet pas de se reconstruire après.
Et ben voilà qui va vous donner de l'eau à votre moulin, François Claus, pour le coup de gueule de ce soir. Et le
personnage oui, mais il va concerner un homme, je pensais depuis le 4 novembre ne plus avoir à en parler. Eh bien non, au contraire, on en parle encore plus. J'ai nommé M. Donald Trump à l'opposé sur l'échelle de Richter, de l'éthique, du coup de cœur tout à l'heure de Laetitia avec Greta Thunberg. Oui, on pensait que Donald Trump, bien, c'était fini. Non, c'est comme s'il voulait profiter des derniers jours et des dernières semaines de ce mandat qui dure jusqu'au 20 janvier pour encore plus marquer ce qui a été ces 4 ans au pouvoir et avec des décisions qui peuvent être très lourdes de conséquences. Alors, vous vous souvenez, le vaccin américain, il a été finalement autorisé par l'Agence américaine du médicament avant-hier. Mm-hmm. Quel était le Trump 2 heures avant, quel était le tweet de Trump 2 heures avant? Je vous le lis tel quel. Hein. L'agence est une grosse tortue. Autoriser le vaccin maintenant en caractère gras, c'est tout juste si on ne lisait pas le P, 3 petits points derrière. L'autorité de régulation va s'exécuter dans la soirée et on vient nous dire qu'il n'y a pas de pression politique après sur les agences du médicament. Le même Trump, rappelons-le, qui avait étendu les autorisations de forage dans l'Arctique quelques heures après sa défaite électorale. Le même Trump qui vient d'un coup de plume de dire que le territoire du Sahara occidental était désormais marocain si le Maroc reconnaissait Israël. Et voilà, c'est fait, au risque de réveiller un conflit et bafouant 15 ans de diplomatie onusienne autour de cette question, sans parler des exécutions capitales qui se multiplient aux États-Unis. Il y en a eu une il y a 2 jours, il y en aura 4 jusqu'au 20 janvier prochain, sur lequel il ne veut pas exercer son loi de grâce, au détriment de la pratique politique américaine qui consistait au moment de cette période de transition du pouvoir qu'on n'exécutait pas. Il y en aura une encore le 12 janvier prochain qui est prévu.
Ouais, François Claus est trumpiste jusqu'au boutiste. Hélas, Laetitia Krupa pour terminer.
Ouais, François, j'ai envie de prendre un pari avec vous. Moi, je vous parie que vous allez nous en reparler dans 6 mois, ben ouais. Dans 8 mois,
non,
dans 10 mois.
Non, mais peut-être même dans une semaine. Ouais.
C'est et ça qui est... Continuez dans très longtemps, cette tweet de diplomatie. J'en suis sûre, oui. Je prends le pari qu'ici, Trump va devenir un troll de la démocratie américaine. Prenons le pari et troll pas uniquement sur Twitter. Il va saper et il va continuer son travail de sape de la démocratie, l'idéal tocquevillien comme on le connaît. Oui. Et prenons les paris. Je sais que c'est un peu cynique et c'est même désespéré.
Non, mais je le redoute également. Vous avez raison, Laetitia. Et non, mais c'est terrible parce que les décisions qui sont prises là dans une urgence totale, au nom d'un ego, au nom d'une névrose quasi infantile de vouloir marquer sa présidence, c'est des décisions qui sont lourdes de conséquences et qui seront dures à remettre en cause. Hein, le forage dans l'Arctique, il va falloir des décisions de justice pendant des mois pour les remettre en cause maintenant.
En tout cas, on va venir sur ce sujet enraciné, cette campagne massive de vaccination dans le pays le plus touché au monde. C'est terrible, hein, les États-Unis, près de 300 000 morts du Covid. On y vient dans un instant avec les premiers lots de vaccins attendus dans les centres de vaccination américains.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix en débat jusqu'à 19h, peu de temps mais beaucoup de sujets. Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, François Claus sont avec nous. La campagne de vaccination grande ampleur, elle a commencé au Royaume-Uni. Les médias ont braqué leurs objectifs sur ces premiers pensionnaires de maisons de retraite anglais. On attendait de voir quels étaient les effets. Alors il y a quelques effets sur les allergiques graves, d'allergie justement. Demain les États-Unis, après-demain le Canada, Israël, puis la France à partir de janvier prochain. Ce calendrier vaccinal, il vous apparaît prudent, Philippe Moreau-Chevrolet, la France semblant un petit peu attendre de voir ce qui se passe ailleurs, mine de rien.
Oui, il est prudent et c'est d'ailleurs la carte de la prudence que joue le gouvernement et Emmanuel Macron, pas Édouard Philippe.
Il est toujours
voilà,
là.
Vous allez comprendre pourquoi je parle
d'Édouard Philippe. Lui, il teste. Mais,
hein, il teste pour le moment.
Emmanuel Macron est prudent parce qu'il craint que la population ne soit réticente. Donc pour gagner la confiance de la population, la tactique qu'ils ont mis en place à l'Élysée, c'est de dire... On va paraître aussi prudent que les gens, on va dire qu'on attend, et puis comme ça, on va retisser une confiance petit à petit. Je ne suis pas très certain de cette stratégie pour ma part, ça ne me rassure pas beaucoup, parce qu'il y a eu des échecs, on l'a vu tout à l'heure, mais ça ne me rassure pas aussi parce que j'aimerais bien qu'on aille de l'avant et qu'on débloque la situation. Il y a des restaurateurs...
On se soumet au calendrier européen, Philippe, hein. On se soumet au calendrier européen. 29 décembre, l'Allemagne également.
Je suis d'accord avec vous, François, mais on est un petit peu réticents, c'est-à-dire qu'on est... on est un petit peu en retrait, on explique qu'on a un petit peu peur du vaccin, qu'on ne connaît pas bien la composition, les vaccins avec ARN, on ne sait pas bien ce que c'est. Ce n'est pas la même chose que nos voisins qui sont tous en train de dire « il faut absolument le vaccin, on met en place ça tout de suite », Trump qui devient fou avec ça, mais la Grande-Bretagne aussi est déjà en train de vacciner, il y a beaucoup plus d'allant chez nos voisins. Et moi, je salue l'interview d'Edouard Philippe aujourd'hui, d'où ma confusion tout à l'heure, dans le JDD, qui a dit « moi, je me vaccinerai sans aucune difficulté, je ne comprends pas le débat français actuel autour de la vaccination et du progrès scientifique. Ça m'inquiète. Bien, moi, je trouve que ça, c'est une voie d'homme d'État. »
Mais est-ce qu'on a tort?
Et c'est ce qu'on attend.
Ouais, est-ce qu'on a tort de douter quand même d'un vaccin qu'on ne connaît pas? Alors, c'est le débat qui nous
garanties,
nourrit depuis quelques semaines.
Il y a des normes, comme tous les vaccins. Il va passer par les fourches codines de la FDA aux États-Unis, du régulateur européen, des autorités sanitaires européennes, puis des autorités sanitaires françaises. Après, le risque zéro n'existe pas, mais le risque du Covid, on le connaît bien.
Ça, c'est sûr. Laetitia Crepin.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi...
Sur l'exemple politique aussi. Hein.
Bien sûr. Et dans la balance, c'est William Dabb qui le dit, l'ancien directeur général de la Santé. Il le dit aujourd'hui dans les pages du journal du dimanche. Il dit qu'il y a aussi à mettre dans la balance les risques du vaccin, certes, mais de l'autre côté, les risques d'un troisième confinement. On sait que près de 20% de la population française frôle des troubles, désordre psychiatrique. Donc, dans cette balance, Wendy, qu'est-ce qui est le plus risqué? Les risques afférents à tous les vaccins, même si celui-ci, on ne le connaît pas, ou les risques d'un troisième confinement, voire d'un quatrième, et de ce stop and go incessant qui mine complètement le moral de la population? Je n'ai pas la réponse, je pose simplement la question.
Mais pour l'instant, c'est vrai, outre Edouard Philippe, on n'a pas beaucoup d'exemples de cet acabit. François Claus, si ce n'est au député Patrick Vignal, qui dit voilà, il faut que les politiques, justement, se mettent quasiment en avant, médiatisent leur vaccination devant les caméras pour montrer l'exemple.
Oui, enfin la médiatisation, moi je trouve que le fait que ce soit un les États-Unis, deux le Royaume-Uni, qui soit en posture de vouloir vacciner avant tout le monde dans une espèce de course un peu délirante et qui a, on l'a vu avec Trump il y a un instant, des sous-entendus. Pour Boris Johnson, on a bien compris en Angleterre que c'était pour montrer aux Anglais que oui, le Royaume-Uni sans l'Europe va faire mieux que l'Europe et plus vite que l'Europe. Donc c'est pas seulement des considérations scientifiques et médicales qui ont présidé à ces décisions-là, et ça c'est évidemment un petit peu gênant. Moi, j'ai presque pris comme mesure positive que Sanofi vienne reconnaître de son côté, non, on n'est pas prêt, on a encore des doutes sur l'immunité des personnes les plus fragiles, il faut procéder encore à des essais. Moi, j'attends ça et je vous dis ça, moi, je suis vacciné. J'ai passé même un an à l'hôpital à cause du vaccin de l'hépatite B, donc je devrais être contre les vaccins. Mes enfants sont vaccinés. 90% de la vaccination en France sur les enfants est aujourd'hui acceptée. Simplement, il faut de la confiance, il ne faut pas que ce soit parasité par des données politiques, comme c'est le cas pour le moment. Et donc, il y a besoin d'un petit peu de calme. Il va falloir normaliser cette campagne de vaccination sans passer par une contrainte légale. Et j'aimerais un petit peu juste un peu de calme.
Oui,
sur cette
en oubliant les discours électoralistes du type Jean-Luc Mélenchon sur la crainte du vaccin.
Mélenchon qui essaie de surfer sur l'électorat anti-vaccin. Alors, le problème, François, c'est que vous avez raison, mais les politiques, eux, ils ont une échéance qui est 2021, les régionales, 2022, la présidentielle. Et pour eux, les anti-vaccins, ils regardent ça comme une réserve électorale. On ne sait pas du tout si ça existe, par ailleurs, vraiment, les anti-vaccins. On n'est pas du tout
convaincus. Oui, alors il y a des anti-vaccins militants qui viennent dire ils le sont depuis le début, mais ils sont très minoritaires. Il y a beaucoup de vaccinaux hésitants aujourd'hui en France. Et moi, j'en fais partie. Est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop vite? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre 2-3 mois et que les autorisations soient là, totalement labellisées?
On rappelle que le vaccin ne sera pas obligatoire.
Voilà.
Concernera les plus vulnérables. Donc François, je pense que vous n'êtes pas concerné. Donc après, vous serez dans la charrette, j'en sais rien, la numéro 2, la numéro 3. Donc je vais vous dire, nous, honnêtement, on sera concerné pas avant l'été. Donc ça laisse quand même du temps pour voir les effets ou pas.
On poursuivra ce débat, les grandes voix, évidemment, dans cette émission. A tout de suite pour revenir sur la grande campagne de dépistage qui commence demain au Havre. Et on va reparler d'Edouard Philippe, justement, à tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Quelques minutes encore avec Laetitia Crepa sur Europe 1, François Claus, Philippe Moreau-Chevrolet, nos grandes voix d'Europe 1. La lutte contre le Covid qui s'affermit encore, on parlait de l'Allemagne dans l'interview précédente, et en France, cette campagne de dépistage massif qui sera lancée dès demain au Havre, Charleville-Mézières également, et puis en région Rhône-Alpes-Auvergne. Laetitia, Philippe Moreau-Chevrolet et François Claus, qu'est-ce que ça vous inspire? Certains parlent de coup de communication bien mené d'Edouard Philippe, ville volontaire, que sa ville du Havre, mais ville aussi très touchée par la seconde vague.
Oui, c'est un très beau coup de com' d'Edouard Philippe. Hein. Comme d'habitude, en pointe sur le virus, c'est un peu comme dit Françoise Fressos du Monde, c'est un président bis, hein. C'est une forme rassurante qui prend un peu trop d'espace peut-être dans l'espace politique sur le virus, mais en tout cas, qui occupe son espace. Et le dépistage massif, c'est bien, il faut le faire, ça a été tenté dans d'autres pays, mais ce n'est pas suffisant en soi quand même. Là où il faut mettre un bémol, c'est que s'il n'y a pas de mesure après pour que ceux qui ont été testés positifs restent effectivement chez eux, oui. Ça ne sert à rien. Il y a un pays qui en a fait les frais récemment, c'est la Slovénie, donc ça ne fonctionne
Slovaquie.
Pas.
Slovaquie.
Oh, pardon, Slovaquie, excusez-moi. Ça ne fonctionne pas et c'est un problème qui a été constaté assez vite et donc ils ont été obligés de reconfiner derrière. Donc s'il y a de la restriction sur la circulation effective, là oui ça fonctionne, s'il n'y en a pas ça ne sert à rien.
En tout cas il revient dans le jeu aussi, lui qui avait si bien géré cette politique sanitaire et il l'a fait candidater sa ville parce qu'il y avait du sens, les fiacres pas.
Oui, je vous laisse dire qu'il a si bien géré cette, j'en sais rien, moi on a tous fini confinés jusqu'en mai, alors est-ce qu'il a vraiment bien géré? Il a géré un petit peu la communication sur la fin en jouant la carte de la transparence que tout le monde a applaudi et continue d'applaudir de façon complètement ébahie et aveuglé, il me semble, hein, mais ça c'est mon avis. C'est marrant parce qu'il revient comme ça en boomerang 3-4 mois après.
Vous n'aimez pas sa barbe, j'ai l'impression.
On a complètement oublié qu'il était là au début et qu'il s'est fait virer par le président. Voilà, après la gestion de la première vague, donc
il s'est fait virer parce qu'il était devenu trop populaire.
Oui, non, mais on est d'accord, Philippe, mais est-ce que c'est un super coup de com'? Oui,
il a tenu ce discours de vérité quand même, hein, y compris
oui,
dans les
commissions parlementaires. Oui, moi je reprocherai jamais, moi j'ai le souvenir quand même de ce qui se passait au printemps dernier, d'avoir cet exercice politique absolument inédit avec un premier ministre, une spécialiste des virus, un ministre de la santé qui était là avec leur paperboard et qui nous expliquait... après tout, c'était un exercice face à une situation inédite, assez inédite de démocratie. Après, moi, j'entendais Monsieur Flao il y a quelques minutes sur. Il disait l'essentiel. On l'a vu avec la Slovaquie. Non, ce n'est pas l'arme, parce que si on a les moyens de tester, on n'a pas forcément les moyens de tracer et encore moins les moyens d'isoler aujourd'hui. Et on ne sait pas comment isoler. Donc, ça ne fonctionnerait que si on arrive.
Olivier Véran a dit qu'il mettrait en place un nouveau système pour isoler avec un accompagnement. Des personnes isolées, enfin, c'est un peu l'enjeu, c'est tout l'enjeu pour le gouvernement, parce que le vaccin...
Oui, mais comment matériellement, vous allez les mettre dans des IBIS, vous allez leur porter des plateaux repas...
La ville de Charleville-Mézières a fait un contrat avec des hôtels conventionnés voilà, pour accueillir certains habitants.
Voilà, par exemple. Alors, en revanche, sur l'aspect strictement scientifique, ça va nous donner une photographie à un instant T du virus dans un endroit donné, ça c'est peut-être intéressant.
Oui, savoir comment le virus circule peut-être aussi et se déjoue.
Je crois que c'est le seul avantage, je crois, parce que quand Edouard Philippe nous dit de toute façon, j'arriverai pas à 50% de la population, à part effectivement avoir cette photographie un peu précise pour nous donner un peu plus d'idées et une vision un peu plus juste pour savoir comment mener la prochaine bataille contre le virus, oui, mais pour vraiment réussir à éradiquer l'épidémie, c'est pas du tout bonne méthode.
Parce qu'on rappelle que
ce serait intéressant de voir. Ce serait intéressant de voir parmi les 270 000 habitants de l'agglomération du Havre
combien ils vont
y aller, oui. Comment vont être gérés les résultats. Ça va être aussi un test grandeur nature. Oui. Moi, il reste un doute profond, c'est que ça va être quand même des tests antigéniques essentiellement, dont l'efficacité sur le plus ou le moins reste très largement sujette à caution.
Alors, les tests antigéniques, François, c'est efficace, il paraît, pour détecter la contagiosité, c'est-à-dire que ça ne vous dira pas effectivement avec certitude si vous êtes malade ou pas, mais si vous êtes contagieux, oui, a priori. Et moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas un autre critère qui ne soit pas mis en avant, qui soit les eaux usées. Les eaux usées, ça permet, par leur analyse, de vraiment savoir quels quartiers vont tomber malades avant même qu'il y ait des malades.
Ah,
et
oui.
On ne les utilise pas en France, il n'y a aucune transparence. Pourquoi ? Ça, c'est un vrai sujet
d'étonnement. Oui, c'est testé avec succès à Marseille. Là. Pour le moment, ça a été malheureusement pas étendu.
Et une dernière remarque, c'est que si cette campagne de RP peut sensibiliser les habitants du Havre au fait de mettre un masque et de ne pas le porter sous le nez, sous le menton ou sur le coude, ce serait génial. Parce que rappelons que ça se porte, enfin moi je dis ça parce qu'à Paris on a beaucoup de sous le nez, ça se porte sur le nez en fait. Donc,
voilà. Mais comment
si
vous voulez boire? Si moi je veux boire, je suis obligée de le baisser, j'ai le droit.
Si vous buvez c'est différent, parce que quand on boit, quand on fume une cigarette, mais porter en permanence sous le nez ça sert à rien, c'est juste, ça sert à rien.
Non, c'est juste une coquetterie.
À mon avis, moi je pense que depuis le début, il y a un grand manque en termes de communication et on devrait communiquer vraiment davantage, tous les jours, rappeler. Ce n'est pas inutile, on a toujours l'impression qu'on va trop matraquer la population française. Il me semble que là, on est vraiment dans des lacunes de communication sévères.
Merci, professeur Laetitia Crepa. Professeur
en termes de communication, je voudrais juste terminer en citant l'Allemagne. Hein. Oui. L'Allemagne, il faut rappeler quand même qu'on en parlait au début, il n'y a pas d'autorisation. Hein. Deux, on ne dit pas il faut être 6, il faut être 5,5, il faut être 6,5 à table, pas un de plus, pas un demi de plus. On dit juste les rassemblements sont limités aux très proches seulement. Hmm. Et bien ça passe mieux, tout simplement.
Oui, absolument. Mais bon. Merci. Merci Laetitia Crepa, François Claus, Philippe Moreau-Chevrolet, les grandes voix d'Europe 1. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, 18h30, 19h. À tout de suite pour l'info.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
C'est l'heure du journal, si vous nous rejoignez avec vous. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Car il est 19h au carillon d'Europe 1, au cœur de ce grand journal. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Ce sont les titres de l'info.
Les mesures de restriction en vigueur depuis le 2 novembre n'ont pas été suffisantes. Nous sommes dans l'obligation d'agir et nous agissons donc maintenant.
L'Allemagne fait face à une forte deuxième vague de contamination au coronavirus. Pour infléchir la courbe, Angela Merkel décide un confinement partiel durant 3 semaines. Les commerces non essentiels, les écoles et les crèches seront fermées dès mercredi.
Le Havre et Charleville-Mézières, nous en parlions, lancent dès demain une campagne de dépistage massif des opérations pour lutter contre la propagation du virus. Alors que les deux agglomérations sont très touchées, nous serons au Havre dans un instant.
Les négociations sur un accord commercial post-Covid se poursuivent au-delà de l'échéance initialement fixée à ce soir. Malgré tout, Boris Johnson affiche son pessimisme et estime qu'un échec reste le scénario le plus probable. Correspondance à suivre.
Et puis, ils sont les cadeaux phares de cette fin d'année. Les vélos ou les trottinettes, les magasins sont dévalisés.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À moins de 2 semaines de Noël, l'Allemagne prend donc aujourd'hui de nouvelles restrictions.
Oui, le coronavirus circule activement. Ces derniers jours, le seuil des 30 000 infections quotidiennes a été franchi. Pour contenir la deuxième vague, le pays décrète un confinement partiel de 3 semaines à partir de mercredi, Hélène Kohl.
Oui, et ça veut dire fermeture des commerces non essentiels, des coiffeurs, des crèches et des écoles. Et pourtant, Angela Merkel sait que l'Allemagne agit déjà trop tard. Elle l'a précisé ce matin. Ceux qui seront malades à Noël, en fait, ils se seront contaminés avant mercredi, avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles restrictions. En revanche, il est encore possible de faire quelque chose pour éviter que les fêtes se transforment en clusters et accélèrent encore davantage l'épidémie. C'est vraiment le pari des annonces de ce dimanche. L'idée est que la population fasse une quarantaine de 8 jours avant les retrouvailles du 24 décembre, le temps pour chacun d'observer son état de santé et s'il y a un doute, de se faire tester et le cas échéant, de s'isoler. Et ensuite, après Noël, y compris pour la Saint-Sylvestre, on retourne en auto-quarantaine dans la bulle familiale stricte, chacun chez soi, jusqu'au 10 janvier au moins, pour ne pas faire circuler le virus dans les salles de classe ou dans les entreprises. Seule la Bavière aura un couvre-feu, sinon partout ailleurs, chacun reste libre de sortir quand il le souhaite, pour faire du sport ou prendre l'air au parc, même en retrouvant une autre famille. Les déplacements au sein de l'Allemagne ou à l'étranger restent autorisés, mais ils sont fortement déconseillé.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. En France, les villes du Havre et de Charleville-Mézières sont très touchées par la deuxième vague. Pour limiter les contagions, les deux agglomérations mettent en place, à partir de demain, une campagne de dépistage massif.
Alors, que pensent les habitants de cette opération ? François Claus se demandait à l'instant combien de Havrais se feraient tester. Jean-Gabriel Bourgeois leur a posé la question.
Je suis un petit peu mitigée parce que c'est vrai qu'on nous dit qu'il n'y a pas forcément besoin de symptômes pour être contaminé. Donc si on le fait, on va le faire à 3, hein, avec mon petit garçon de 4 ans.
Je sais que c'est en accès libre, qu'on peut y aller quand on veut, qu'il suffit juste de présenter, que les résultats seront assez rapides. Donc tout le monde va pouvoir à peu près savoir où ils se situent, s'ils doivent faire encore plus attention que d'habitude ou s'ils peuvent aller fêter Noël en famille sans risquer la santé des autres membres de la famille.
Je me ferai pas dépister en sachant que j'ai aucun symptôme. Après, ça fait un peu peur l'approche des fêtes. On se dit, et si je suis positif, et les fêtes, c'est un peu égoïste, mais c'est vrai qu'on y pense.
Voilà. Et vous, madame ?
Moi, pour l'instant, je vais pas le faire. Je préfère laisser les gens qui ont plus de problèmes de santé, les personnes âgées, etc., en premier y aller. Et après, moi, j'irai, mais plus tard. Mais pour l'instant, non.
Des témoignages recueillis au Havre pour Europe 1 par Jean-Gabriel Bourgeois.
Quelle utilité de cette campagne massive de dépistage ? On en parle avec Agnès Firmin-Lebaudeau, conseillère municipale et communautaire à la mairie du Havre. Et je poserai la question à Pierre Urmic, le maire écologiste de Bordeaux. Y souscrira-t-il ? À 19h15, nos invités nous répondent sur Europe 1.
Plusieurs fêtes clandestines ce week-end. La police est intervenue pour évacuer les convives. Ils étaient 500 à Marseille, dans une salle du 14e arrondissement, au mépris du confinement et des règles sanitaires. la plus importante soirée repérée depuis celle de Joinville-le-Pont mi-novembre. À Strasbourg et Nantes, ce sont à chaque fois une centaine de personnes qui étaient réunies. Des enquêtes pour mise en danger de la vie d'autrui ont été ouvertes.
Dans l'actualité également, des négociations post-Brexit très difficiles, mais qui ne sont pas rompues.
Le Royaume-Uni et l'Union européenne vont poursuivre leurs discussions au-delà de la date limite qui était initialement fixée à ce soir. Malgré cette décision, Boris Johnson affiche son pessimisme.
Je pense qu'un accord est possible si nos partenaires ont cette volonté. Mais nos positions demeurent très éloignées sur plusieurs points de blocage. Le plus probable reste une sortie sans accord. Nous devons être prêts, mais n'oubliez pas, cela fait maintenant 4 ans et demi que nous nous préparons.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson. Bonsoir Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Pourquoi ce ton pessimiste et défiant après l'annonce de la poursuite des discussions ?
Alors, avec cette déclaration, Boris Johnson a voulu minimiser les espoirs suscités par la reprise des négociations. Il faut le voir comme un message adressé aux Européens. Nous restons droits dans nos bottes et nous n'accepterons pas tout pour obtenir un accord commercial. C'est aussi un message dirigé à l'aile eurosceptique de son parti. Les élus conservateurs, partisans d'un Brexit dur, maintiennent la pression sur le Premier ministre. Certains d'entre eux se sont exprimés aujourd'hui pour dire qu'ils ne toléreraient aucune concession faite à Bruxelles. Mais il faut noter que malgré ces mots, Boris Johnson a baissé d'un ton. Il y a encore quelques jours, à la Chambre des communes, il tonnait contre les 27 qui veulent, je cite, un droit automatique de punir la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il s'est montré moins véhément. C'est un signe qui permet de rester optimiste.
Anaïs Cordoba, la correspondante d'Europe 1 à Londres.
Emmanuel Macron recevra demain, en fin de journée, au Conseil économique, social et environnemental, la fameuse Convention citoyenne sur le climat.
Oui, un troisième rendez-vous depuis le début de l'année, un rendez-vous qui s'annonce tendu. Les membres de la Convention craignent que leurs propositions pour lutter contre le réchauffement climatique soient détricotées. Et Claudia Bertram, que va leur répondre le président ?
Eh bien, Emmanuel Macron veut écouter les membres de la Convention, éclaircir certains points s'il y a des inquiétudes, explique son entourage. Et des inquiétudes, il y en a, vous le disiez. Pour cette troisième rencontre, le chef de l'État veut un échange libre dans un format resserré, sans le comité de gouvernance ni les garants, dont fait partie le militant écologiste Cyril Dion, avec lequel Emmanuel Macron a eu quelques passes d'armes ces derniers jours. Le chef de l'État veut faire le point sur l'élaboration du projet de loi climat issu de leurs propositions. Il pourrait d'ailleurs annoncé certains arbitrages. La question du référendum sera sans doute abordée. Le président s'y était dit favorable pour certaines de leurs mesures. Son entourage l'assure, tous les sujets pourront être mis sur la table demain et il est prêt à y consacrer du temps. La rencontre va durer plusieurs heures, prévient d'ores et déjà son entourage.
Et Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Et notez qu'Europe 1 vous propose dès demain une grande séquence politique durant deux jours avec en invité dès demain matin à 8h15, Xavier Bertrand.
Et Jean Castex, hein, nous le reprécisons, mardi à 8h15, invité spécial de la matinale. On s'intéresse à présent aux cadeaux stars de ce Noël 2020, Sophie, alors que les Français sont en plein dans leur achat.
Oui, et cette année, les vélos, les trottinettes ou encore les monoroues, on le vend en poupe, Élise Dangean.
Et oui, cette catégorie qui regroupe les vélos, les trottinettes, mais aussi les skateboards ou encore les gyropodes monte en puissance, plus 91% chez Boulanger par exemple. Et c'est le vélo qui a le plus le vent en poupe chez Cdiscount sur la seule journée du Black Friday. On en a vendu 3, voire 4 fois plus, c'est énorme. Et pour cause, selon Tiffaine, qui a mis un vélo électrique sur sa liste au Père Noël, eh bien c'est tout simplement le cadeau parfait.
J'ai sollicité ma famille tout entière pour pouvoir m'offrir ce gros et beau cadeau. Parce qu'évidemment, ça a un coût, mais au lieu d'acheter des chocolats qui, entre nous, vont nous faire grossir ou des petites bricoles à droite à gauche qui resteront dans les placards, je préfère un cadeau qui me sera très utile.
Et ce qui fait le succès de ces équipements, ce ne sont pas que les nouveaux adeptes, selon Olivier Garcia, directeur des produits pour le groupe Fnac Darty.
Là, ce qu'on note, c'est une amélioration de la qualité des produits achetés, notamment une montée en gamme. Donc là, on est vraiment sur une deuxième génération de clientèle hein, qui a découvert peut-être les années précédentes et qui se rééquipe avec des modèles plus performants.
Alors avec un tel engouement, gare à la pénurie, c'est déjà le cas pour certains vélos.
Élise Dangean, c'était Journal de Sophie Tussaud. On vous retrouve à 19h30 pour le Fil Info. Merci Sophie. Petit point météo avec le programme de demain lundi 14 décembre, Valérie Darmon.
Eh bien, des Pays de la Loire aux Charentes, à la Bretagne, la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, bassin parisien, quelques faibles pluies éparses et beaucoup de douceur en ce lundi. Du bassin aquitain au Grand Est, en passant par l'Auvergne, par la Bourgogne, la Franche-Comté, le temps sera sec et nuageux. Et puis des Pyrénées à Rhône-Alpes, les éclaircies s'imposent dans un ciel voilé après l'habituelle dissipation des grisailles matinales. Près de la Méditerranée, après une journée bien ensoleillée en ce dimanche, le temps va se dégrader avec la levée du vent marin et l'arrivée de nombreux nuages. Il va même commencer à pleuvoir sur les Cévennes. Les températures affichent 5 à 10 degrés le matin et entre 11 et 13 l'après-midi.
Merci Valérie Darmon. L'actu des sports, on vous retrouve Axel, mais bonsoir.
Bonsoir.
Et ça y est, la Ligue 1 a un nouveau leader, il s'agit de Lille.
Oui, le club nordiste détrône le PSG qui jouera ce soir, on va en reparler, grâce à sa victoire contre Bordeaux, victoire que vous avez suivie pour Europe 1, Sébastien Boé.
Oui, le LOSC, nouveau leader de la Ligue 1, grâce à son succès 2 buts 1 face aux Girondins de Bordeaux. Les nordistes prennent provisoirement la tête en attendant bien sûr le match du PSG ce soir face à Lyon. Des Lillois qui n'ont pas traîné cet après-midi face à Bordeaux. Ouverture du score rapide dès la 16e minute avec un but de Jonathan Bamba. Les Bordelais ont réussi à égaliser à la 30e minute sur un corner de Ben Arfa pour Bazic qui était à la réception. Et juste avant la pause, les nordistes profitent eux aussi d'un corner pour reprendre l'avantage avec une tête de José Fonte. En seconde période, le LOSC a largement dominé les débats, mais n'a jamais réussi à creuser l'écart malgré de nombreuses occasions. Victoire au final logique, méritée. Avec ce nouveau succès au stade Pierre-Mauroy, le LOSC a confirmé qu'elle est bien la meilleure équipe à domicile en Ligue 1 cette saison. 8 matchs, 6 victoires pour 2 matchs nuls.
Sébastien Boé est parmi les autres résultats de cette 14e journée de Ligue 1. Nantes a fait match nul contre Dijon, un partout. L'avant-match a été marqué par des heurts avec les forces de l'ordre. Des supporters nantais ont manifesté leur colère contre le président des Canaries, Valdemar Quita, à qui il reproche sa gouvernance.
Et ce soir, 21h, c'est le dernier match de cette 14e journée. Le PSG qui joue.
Oui, et qui devra faire au moins match nul contre l'OL pour reprendre la tête de la Ligue 1 à Lille. Mais attention, Lyon est en forme et cela donne de l'appétit au défenseur rhodanien Léo Dubois.
Déjà, il y a un enchaînement de victoires, donc voilà, ça c'est positif. On est en confiance. Après, on arrive aussi avec beaucoup d'humilité parce qu'on sait que c'est jamais simple là-bas. On a eu ces dernières années peu de résultats favorables, donc voilà, c'est à nous de renverser la tendance. On sait qu'on en est capable. Si on joue notre football et qu'on est déterminé à gagner ce match, tout est possible, donc on y croit.
Léo Dubois avec Maxime Schuch. A noter que côté parisien, Mbappé est remplaçant ce soir.
On suivra le match dès 21h sur Europe 1 avec Europe 1 Sport qui commence à 20h. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Émission dans laquelle vous recevez ce soir, c'est pas commun, un homme politique. On le connaît, c'est le maire de Poissy, Carl Olive. Pourquoi
absolument.
Lui
absolument. Alors, il est maire de Poissy, mais c'est surtout un grand passionné de foot. Et désormais, il siège au conseil d'administration de la Ligue professionnelle de football en tant que représentant de la Fédération française de football. C'est quelqu'un aussi qui a dirigé la rédaction des sports de Canal+, il y a quelques années. Donc, il est très au fait de toutes les affaires de droit du foot, de négociation de droit et la situation, vous voyez où je veux en venir, du football professionnel aujourd'hui et des clubs français. Certains sont en cessation de paiement, vont avoir du mal à payer les factures avec le non-règlement de Mediapro de ses droits du foot. Et donc, avec Carl Olive, on va essayer, même s'il a un devoir de réserve, d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est dit lors du dernier conseil d'administration, c'est-à-dire vendredi à la Ligue, pour les grandes décisions, les grandes orientations pour sauver le foot français, qui en a vraiment besoin.
Eh bien, échange à suivre. Hein. Dès 20h sur Europe 1 avec vous, Lionel Rousseau. On termine Axel, mais avec du rugby, une rentrée réussie pour le Racing et Lyon en Coupe d'Europe.
Oui, succès 26-22 du Racing 92 face aux Irlandais du Connacht, et puis succès beaucoup plus large de Lyon contre Gloucester, 55-10 à l'occasion de cette première journée de Coupe d'Europe. Un mot de Formule 1, c'était le dernier Grand Prix de la saison qui a été remporté à Abu Dhabi par le fougueux néerlandais Max Verstappen devant les Mercedes de Bottas et Hamilton. McLaren termine sur le podium des constructeurs derrière Mercedes et la voiture de notre camarade Verstappen, la Red Bull. Et puis Renault rétrograde à la cinquième place. Renault qui l'an prochain s'appellera Alpine.
Ah bah oui, voilà. Bah oui, mythique modèle. Merci beaucoup Axel May. Et je ne pouvais pas vous aider, pardon. Dans un instant, les sports se poursuivent. On prend la mer, le Vendée Globe.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 19h15 et c'est un grand sportif que nous accueillons maintenant sur Europe 1, naufragé, récupéré dans des conditions dantesques en pleine course du Vendée Globe. Bonsoir Kevin Escoffier.
Bonsoir.
Et vous qui devez votre salut au skipper Jean Lecam, il vous a récupéré en pleine mer, nous avons suivi cela, il vous a confié ensuite au Niveau, ce frégate de la Marine Nationale, vous avez accosté à La Réunion, vous voici en métropole, vous allez retrouver vos proches, Kevin Escoffier. Dans quel état d'esprit aujourd'hui?
Je suis un petit peu soulagé de retrouver mes proches parce qu'il fallait
fallait clôturer cette histoire. Ça fait 10 jours que je fais un peu du bateau stop, comme vous l'avez dit, avec Jean Le Cam. Alors tout d'abord mon bateau qui casse en deux, un peu de radeau, ensuite Jean Le Cam, la Marine nationale, et puis voilà, 2 jours à La Réunion, et j'ai voyagé cette nuit pour revenir. Donc voilà, je suis soulagé de retrouver mes proches. Et puis voilà, soulagé aussi de pouvoir clôturer cette histoire et d'essayer d'envisager l'avenir en espérant retourner sur l'eau rapidement.
En laissant un petit peu de vous, évidemment, au fond de l'Atlantique Sud, hein, votre bateau repose maintenant dans ses fonds marins. Ça vous laisse forcément un goût amer de l'empathie, de la tristesse aussi quelque part.
Ouais, il y a forcément de la déception. Il y a une déception sportive parce que encore une fois, je m'étais donné comme objectif de finir le Vendée Globe avec PRB. J'avais travaillé 2 ans très très fort pour essayer d'atteindre cet objectif. J'avais renforcé le bateau. J'avais imaginé beaucoup de scénarios de casse et en essayant de modifier le bateau pour éviter ces scénarios-là. Et malheureusement, j'abandonne un bateau avec lequel je me sentais bien, avec lequel j'étais troisième et où je pensais avoir un bateau en parfait état pour pouvoir continuer et envisager la suite sportive de la meilleure des façons. Et voilà, je perds le bateau sur une casse que je n'avais jamais envisagée, de casser le bateau en deux. Et c'est cette casse aussi qui a fait que la suite a été compliquée, parce que normalement un Imoca est insubmersible et une fois cassé en deux, il ne l'est plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de aussi d'essayer un autre type de bateau qui est un radeau de sauvetage où je conseille pas ce type de croisière.
Ah ouais, franchement, vous avez vécu des moments et des heures, 10 heures en l'espèce, très compliquées au milieu de cette mer déchaînée. Et pour venir sur le côté sportif, Kevin Escoffier, ce qui ressort de cette aventure, mésaventure, c'est que même si les bateaux deviennent de plus en plus rapides, des monstres de technologie qu'il faut apprivoiser et dompter, eh bien les valeurs des hommes à bord ne changent pas. Et ça, vous l'avez vraiment expérimenté.
Je pense que c'est la base. On est tous compétiteurs, hein. Jean le premier, moi également. Mais dans ces situations-là, on oublie un petit peu la compétition et on s'aperçoit que on peut se créer de très beaux souvenirs en gagnant une course, mais on peut s'en créer d'aussi beaux, voire plus, en ayant juste une belle histoire humaine derrière. Et je pense que c'est ce qui a touché les gens aussi.
Oui, bien sûr, mais c'était très fort. Et je terminerai avec ces compagnons skippers qui poursuivent leur course en direction du sud de l'Australie. On a un trio de Français, hein, Charlie Dalin mène la course. Vous allez continuer de la suivre, cette course du Vendée Globe, malgré tout, Kevin Escoffier?
Oui, je vais continuer malgré tout à suivre la course, même si à chaque fois que je regarde un classement, ça me fait un petit pincement au cœur. Mais je vais continuer à la suivre, je vais continuer même un peu plus assidûment quand je serai à la maison pour m'entraîner à faire des routages, la météo, etc. Voilà, non, il faut, c'est toujours intéressant ce style de course. Il faut pas perdre le fil, ça permet de voir la performance des concurrents également et de donner un ordre d'idée du bateau qu'il me faudra pour faire le meilleur résultat possible en 2024.
Merci Kevin Escoffier, bonne fin d'année à vous, merci beaucoup.
Au revoir Wendy, merci beaucoup.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h21, dans cette lutte anti-Covid sur le terrain, les élus sont mobilisés évidemment et nous sommes ce soir à Bordeaux avec le maire Pierre Urmic et en duplex du Havre avec Agnès Firmin, députée de Seine-Maritime et conseillère municipale au Havre. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 avec le Havre qui se prépare à lancer demain et pour 5 jours sa campagne de dépistage massif anti-Covid. Agnès Firmin, Le Bodo, quelle est pour vous la vertu de ces tests antigéniques qui seront proposés à votre population sur la base du volontariat?
Donc à partir de demain, à la demande de l'État, la communauté urbaine du Havre, avec beaucoup de partenaires, des professionnels de santé, des industries, a décidé de mener cette grande campagne de tests massifs, antigéniques, mais aussi PCR dans les laboratoires. Cette vertu, c'est d'abord de pouvoir faire une photo de la situation épidémiologique de notre population à l'instant T pendant cette semaine, mais aussi, avant les fêtes de Noël, de pouvoir dépister et trouver des cas positifs, de tester l'accompagnement à l'isolement des personnes, puisque c'est bien aussi ça que nous allons faire pendant cette semaine, et aussi de faire passer un grand message de prévention en répétant aux personnes qui seront diagnostiquées négatives qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières. C'est vraiment aussi un message très important à continuer à faire passer.
Bien sûr, tester, alerter et protéger. Comment isoler, encourager à l'isolement? Charleville-Mézières encourage à s'isoler à domicile ou dans des hôtels conventionnés en milieu urbain. Chez vous, qu'est-ce que ça donne?
Bah écoutez, demain, à partir du moment où une personne sera testée positive, la communauté d'agglomération, en lien avec l'ARS et la préfecture de Seine-Maritime, a mis à disposition un numéro, une ligne pour laquelle les personnes seront appelées et on leur proposera d'être accompagnées, soit à domicile s'ils le souhaitent, soit dans un hôtel, comme c'est déjà le cas. Mais on voit statistiquement que les personnes ne souhaitent pas aller à l'hôtel, mais plutôt souhaitent être accompagnées à domicile, pour bien expliquer les règles sanitaires au domicile, mais oui. aussi pour, sur le plan logistique, pouvoir être accompagné pour que quelqu'un fasse les courses, aille accompagner les enfants à l'école, aille chercher les médicaments à la pharmacie. Voilà, c'est tout un dispositif personnalisé qui sera mis en place.
Bien sûr. Pierre Urmic, vous qui êtes à l'écoute de ce dispositif, Bordeaux, votre ville, n'a pas été candidate à ce type de dépistage. Pas encore ou pas du tout? Et pourquoi, Pierre Urmic?
Ah si, sur le dépistage, ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes, je crois, assez en pointe sur ce terrain-là, et oui. un accord avec l'ARS.
Pas de manière de campagne massive comme le soutient le gouvernement, mais vous faites des dépistages chez vous, bien sûr.
Si, on fait des dépistages dans les en ville, c'est-à-dire qu'on a installé des centres de dépistage gratuits sur oui. les places emblématiques de la ville, où nous travaillons, ou d'ailleurs qui marche bien, où nous travaillons en collaboration avec l'ARS, et puis une campagne de communication très importante. Mm-hmm. Et notamment, nous avons dépêché, alors depuis le début de la crise, des médiateurs dans les rues de Bordeaux, y compris dans certains quartiers difficiles. Donc des médiateurs qui sont là pour alerter les habitants sur les dangers des rassemblements, qui leur donnent des informations, qui les écoutent, qui les rassurent. On a un système de médiation qui fonctionne plutôt bien. Et là, depuis quelque temps, on les a beaucoup concentrés dans nos rues commerçantes et piétonnes, depuis la réouverture des commerces, pour qu'ils soient très présents, pour éviter les attroupements devant les magasins. Nous sommes également très proches des commerçants bordelais pour les aider à limiter la présence de clients dans le magasin. C'est ainsi qu'on vient de mettre à leur disposition des tentes et des chalets pour que les paquets cadeaux soient faits à l'extérieur des magasins. C'est une opération que l'on a commencée ce week-end et qui est très appréciée, qui marche très bien. Donc on est extrêmement mobilisé pour sensibiliser et pour accompagner non seulement nos commerçants, mais également toute la population pour les alerter sur tous les risques d'attroupement. Et puis les inciter au dépistage. Nous avons veillé aussi à ce que les pharmaciens de Bordeaux soient vraiment des partenaires efficaces dans cette campagne de dépistage. Il y a plus d'un pharmacien sur cinq actuellement qui pratique des tests ou des tests PCR ou des tests antigéniques. Je crois qu'il y a une véritable mobilisation en plus. Qui est assez ancienne, alors que précisément Bordeaux, on a été touché assez tardivement par l'aggravation de la situation. Par exemple, on a fait partie des rares métropoles dans lesquelles il n'y a pas eu de couvre-feu à Bordeaux, parce que à l'époque la situation épidémiologique n'était pas du tout inquiétante. Alors, elle est devenue un peu plus inquiétante la semaine dernière, quand les indicateurs épidémiologiques se stabilisent, voire augmentent un peu notamment chez les personnes les plus âgées. Donc on rentre dans une période difficile, mais je pense qu'on avait quand même sérieusement anticipé depuis plusieurs semaines.
À ce jour, Pierre Urmic, êtes-vous capable de nous dire quelle part de la population a bénéficié de ce dépistage et si, pour le coup, ça a été utile et bien suivi chez vous, à Bordeaux?
Alors, ça serait votre partenaire pour répondre à cette question, ça serait plutôt l'ARS qui centralise toutes les opérations. Nous, on a simplement mis à la disposition des autorités sanitaires des lieux. Je ne peux pas vous dire exactement quel est le retour, mais ça a mis du temps à démarrer. Je crois que maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas s'ils ont déjà des retours ou des statistiques.
Si je vous pose la question, c'est que c'est important, oui. Agnès Le Firmin, de votre côté aussi, oui. Agnès Le Firmin, le Bodo, du côté du Havre, Édouard Philippe espérerait que 50% des habitants de la communauté puissent aller se faire dépister. C'est un chiffre que vous avez décidé ensemble.
Je ne pense pas que nous y soyons. Enfin, non, je ne pense pas que nous soyons. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de villes qui ont réussi. Ça serait un taux de dépistage fabuleux.
Agnès Firmin-Lebaudot, vous pouvez nous répondre.
Oui, je vais vous répondre. L'idée, il y a dans l'agglomération 270 000 habitants, l'idée est de dépister le plus grand nombre possible de nos concitoyens. Se fixer un objectif chiffré 50%, j'espère que nous y arriverons, ça peut être compliqué, mais l'idée c'est vraiment, nous sommes prêts, nous, à tester le plus grand nombre de nos concitoyens. Des grandes entreprises vont tester leur personnel, des lycées vont pouvoir permettre de tester les lycéens, mais aussi les personnels enseignants. Donc tout le monde est vraiment, j'allais dire, sur le pont pour proposer à nos concitoyens le fait de se faire tester pendant cette semaine, avant les départs en vacances, rappeler les gestes barrières qui sont utile à rappeler, vraiment, j'insiste sur ce fait, et leur permettre aussi de leur dire, au retour des vacances, venez de nouveau vous faire tester avant de retourner au travail, avant de retourner au lycée. C'est aussi important de faire en sorte, je crois, de faire en sorte de faire entrer dans les têtes que le test est devenu presque un geste barrière.
Oui, et les pharmaciens...
On va se faire tester.
Les pharmaciens que Pierre Urmic citait, dont vous êtes, vous êtes pharmacienne, Agnès Firmin-Lebaudeau, sont aussi mobilisés dans cette grande campagne de dépistage.
Tout à fait. Les pharmaciens, comme des acteurs de santé publique, comme le sont les infirmiers, les biologistes et les médecins libéraux, qui vont aussi participer dans leur cabinet, qui vont proposer à leurs patients de se faire tester, c'est aussi important. Voilà, donc vraiment tout le monde s'est mis en ordre de marche pour pouvoir tester et proposer de faire ce test à un grand nombre de nos concitoyens.
Oui.
Plus ils seront nombreux à se faire tester, mieux ce sera.
Pierre Urmic, il n'y a pas de politique qui vaille ici, droite-gauche, tout le monde est mobilisé dans ce combat pour le coup.
Absolument. Notre rôle, oui, je pense, notre rôle de maire, c'est un rôle d'alerte. Il faut vraiment que l'on arrive à persuader nos concitoyens de faire cette démarche de dépistage qui est une démarche sanitaire civique. Donc, je pense qu'on le fait sur les moyens de communication de la ville. Et puis après, c'est un rôle de facilitateur de tout mettre en œuvre pour que ces lieux de dépistage ils puissent avoir lieu dans tous les quartiers de la ville. Donc, c'est ce que nous essayons de faire déjà depuis quelques semaines. Bah, je pense que ça va être, je ne sais pas si ça sera déterminant, mais je pense que sur le long terme, plus il y aura de dépistage, plus ça sera une façon d'éradiquer la propagation du virus.
Avec un appel à la responsabilité que vous relayez aussi du côté du Havre, Agnès Firmin-Lebaudeau, cette campagne est importante. Si vous êtes négatif, ça n'équivaut pas, on le répète, à un totem d'immunité. Olivier Véran a trouvé la bonne formule.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne formule. En tout cas, c'est une formule qui parle aux gens. Voilà, exactement. Et vraiment, les messages qu'on va faire passer, c'est vous êtes négatif aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que dans 3 jours, vous le serez. Donc, on continue à porter le masque, même si on a à la maison. On continue à ne pas embrasser, même si c'est compliqué, ses grands-parents ou ses petits-enfants ou ses proches. On continue à aérer son domicile. On continue à respecter les gestes barrières, à respecter la distanciation, tant que nous ne sommes pas vaccinés, parce que c'est le vaccin qui nous apporte cette immunité collective et
c'est
on
ça.
Va développer l'isolement, j'insiste beaucoup, car accompagner l'isolement des personnes positives, c'est aussi le seul moyen d'avoir à ne pas reconfiner la France dans les semaines à venir.
Appel à la responsabilité du côté de Bordeaux, dont vous êtes maire, Pierre Urmic. J'attire l'attention de nos auditeurs sur le monde de la culture, on en parle suffisamment, qui, mardi, devant la préfecture à Bordeaux, se mobilisera. Il dépose ses acteurs un référent liberté pour rouvrir les lieux de spectacle. Est-ce que vous les soutenez ou vous demandez l'apaisement et la responsabilité pour le coup en cette période compliquée, Pierre Urmic?
Nous demandons au gouvernement qu'il se soucie très sérieusement de la culture. Pas seulement pour venir en aide aux acteurs culturels, même si c'est fondamental. Beaucoup d'acteurs culturels, je vois à Bordeaux, sont surtout actuellement en difficulté parce qu'on leur avait annoncé à partir du 15 décembre que les spectacles, cinéma, spectacles pourraient reprendre à condition de se terminer à 21h. Donc beaucoup étaient partis sur ce calendrier-là. Et c'est évident qu'ils ont été extrêmement surpris d'apprendre la semaine dernière qu'il n'en était rien. Moi-même, maire de Bordeaux, j'avais appelé mes concitoyennes et mes concitoyens, leur dit, mais écoutez, pour les fêtes de Noël de fin d'année, n'hésitez pas à abuser de la culture, aller dans les musées, aller dans les salles de spectacle. Nous étions tous un peu rassurés par les annonces gouvernementales.
Là, il faut s'incliner.
Oui, il faut s'incliner. Mais j'appelle aussi le gouvernement à faire quand même en sorte que le plus rapidement possible, on puisse quand même retrouver ce qui est fondamental dans la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire un accès à la culture. Aujourd'hui, moi je me rends compte comme tout le monde, il y a quand même pas mal de mauvaise humeur qui circule dans l'opinion, il y a un désarroi, mais dans ces périodes de mauvaise humeur et de désarroi, plus que jamais, les gens ont besoin de s'évader, de se consoler, partager leurs émotions. Et je pense que la culture, c'est ce qui va nous aider à mieux supporter cette crise. Moi, beaucoup de médecins m'alertent aussi sur des pathologies mentales.
Oui, psychiatriques, on en parlait.
Qui est dû au fait que les gens n'échangent pas suffisamment.
On doit s'arrêter là, pardonnez-moi.
Voilà.
Merci beaucoup. La culture et l'appel à la responsabilité. Pierre Urmic, maire écologique de Bordeaux, et Agnès Firmin-Lebaudeau pour cette grande campagne de dépistage massif menée au Havre dès demain. Merci à tous les deux.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
19h32 sur Europe 1, l'heure du fil info. Sophie Tussaud.
L'Allemagne se confine avant Noël à partir de mercredi jusqu'au 10 janvier. Les commerces non essentiels ainsi que les écoles et les crèches seront fermées. Des fêtes clandestines en plein confinement. 500 personnes ont été évacuées la nuit dernière dans le 14e arrondissement de Marseille. Des scènes similaires à Strasbourg et à Nantes où à chaque fois une centaine de personnes a participé aux fêtes sauvages. Le pessimisme de Boris Johnson, même si les négociations pour trouver un accord commercial post-Brexit continuent avec l'Union européenne. Le Premier ministre britannique estime qu'un échec des discussions reste le scénario le plus probable. Et puis, première apparition du président algérien depuis 2 mois, très amaigri, Abdelmadjid Tebboune, qui a été hospitalisé en Allemagne pour le coronavirus, s'est dit en convalescence pour encore 2 ou 3 semaines.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard, Planète Sauvage.
19h33 sur Europe 1 et dans ce 18-20, nous parlons chaque semaine de l'actualité animale avec cette campagne d'importance lancée par la Fondation 30 millions d'amis dont je reçois ce soir la présidente sur Europe 1. Bonsoir Réa Hutin.
Bonsoir Wendy.
Merci de venir nous parler de cette campagne qui s'intitule Action Urgence Hiver pour les refuges. Un appel aux dons pour ces structures qui s'apprêtent à traverser une période très compliquée et que vous soutenez tout au long de l'année, mais en hiver un peu plus particulièrement.
Oui, c'est vraiment primordial. Nous avons 250 refuges partenaires. Il faut savoir qu'il y a entre 50 000 et 80 000 animaux qui sont en attente d'une adoption. Et pour 80 animaux recueillis, il n'y a que 50 places disponibles. Donc, c'est vraiment dramatique. Et nous insistons sur cette urgence hiver parce que ces refuges sont des phares dans la nuit pour les animaux abandonnés ou maltraités. C'est d'ailleurs le symbole que nous avons utilisé pour faire notre appel à l'aide et nous comptons effectivement sur la générosité des amis des animaux pour nous donner les moyens d'aider ces structures. En effet, c'est des dépenses d'électricité qui sont accrues, des mises en normes des structures qui souffrent des intempéries en hiver, tout comme les dépenses de nourriture ou de frais vétérinaires. Vous savez, Wendy, les animaux que nous recueillons sont pour la plupart en très mauvais état, surtout en hiver. Ils manquent de soins, ils sont gravement blessés, parfois même torturés. Donc, c'est vrai que toutes ces structures font face à des dépenses vraiment immenses.
Et vous ajoutez à cela, Réa Hutin, le Covid ambiant qui fait que nous avons, hélas, dans ces refuges, moins de visites, moins de bénévoles aussi, et que cet hiver 2020 sera plus difficile d'une certaine manière.
Mais oui, évidemment. Mais nos refuges sont ouverts sur rendez-vous, vous savez, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse vider ces refuges, ces cages, pour que ces animaux retrouvent des familles et des familles aimantes cette fois-ci.
Oui.
Pour les sauver.
Et traditionnellement, la période de Noël, elle est propice à ces adoptions, s'offrir un compagnon et offrir à cet animal une famille pour rompre un petit peu cette sinistreuse ambiance. Ça nous invite à la douceur et ça vous invite aussi à répéter cette formule qui consiste à combattre l'animal cadeau. Vous le répétez, mais il faut le répéter, Réa Hutin.
Oui, absolument, parce que vraiment, lorsqu'on prend un animal, c'est pour la vie, c'est un acte concerté, on en parle en famille et on n'offre pas comme ça un animal. Et puis, il faut surtout faire attention, il faut aller adopter les animaux et non pas aller dans des commerces, parce que finalement, eux, ils sont là pour écouler leur marchandise et profiter de ces coups de cœur. Alors que dans un refuge, vous savez, le personnel est là pour vous conseiller, former des couples maîtres-chiens et prendre le temps de vous expliquer les choses. Donc c'est vraiment très important et surtout pas d'aller acheter sur les réseaux sociaux, sur Le Bon Coin et autres.
Oui, qui est un fléau que vous combattez.
Voilà, c'est en plus la porte ouverte à tous les trafics de ces animaux qui rentrent des pays de l'Est et qui de toute façon auront des problèmes de santé, de comportement et on ne sait pas d'où ils viennent ces animaux qu'on vous dit « Ah, je donne chiot », mais en fait, quand vous creusez un peu, ils ne le donnent pas du tout. Vous vous rendez complice d'un trafic et en plus, vous
Absolument.
Vous faites arnaquer au passage.
Réa Hutin, vous êtes présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Nous sommes mi-décembre et c'est aussi ce soir l'occasion de faire, j'allais dire, un petit peu le bilan de vos actions pour la Fondation en dépit de cette année à moitié confinée. Quelles sont vos fiertés pour 2020, Réa Hutin ?
Mais vous savez, on était quand même sur le pont. On a sauvé plus de 1500 animaux. Il y a une maltraitance endémique qui ne cesse jamais. C'est 500 chiens, 500 chats, des équidés, des lions, des lionceaux, des mandarins, perruches, tortues. Non, mais vous voyez, il y a de tout. On arrive à faire souffrir n'importe quel animal.
Oui.
Et donc, occasion qu'on a été là, mais je dois dire qu'on a été très contents aussi d'être écoutés un peu par la ministre de l'Environnement, Madame Pompili, qui vraiment a pris des mesures pour annoncer l'arrêt des cirques itinérants. Donc c'est l'aboutissement de tout un travail acharné des associations de protection depuis très longues années, et nos appels ont été quand même entendus, même si on n'a pas de date. Nous déplorons le manque de calendrier précis.
Oui, mais il y a une prise de conscience, et c'est déjà très important.
Et pareil, un petit mot sur ces élevages de visons. Oui. Il faut vraiment réussir à ce qu'on les interdise. C'est pas possible. On a exterminé des milliers d'animaux. C'est pas à titre préventif. Donc ce serait terrible qu'on rouvre ces élevages de visons.
On en parlait avec Loïc Dombreval, avec en plus la persistance de contamination de virus éventuellement mutants du Covid dans ces bêtes qui sont elles aussi en promiscuité. Je voudrais qu'on termine, chère Aïta. Il y a beaucoup de choses à évoquer, notamment la ferme des 1000 vaches qui est fermée, sous la pression des associations.
Et puis les delphinariums aussi, on commence à nous écouter.
Exactement.
Il y a des annonces qui ont été faites. Donc nous sommes pleins d'espoir malgré tout ce désastre sanitaire auquel on fait face.
Absolument. Je voulais vous faire réagir à une information du week-end pour terminer. On va parler de la SPA juste pour cette annonce de Gérald Darmanin qui a versé ses indemnités de maire non perçues, 20 000 euros à la SPA de Tourcoing parce qu'il a adopté son chat dans cette SPA. Il l'annonce lui-même sur Twitter. Vous saluez ce geste et sa communication. Ça peut être la SPA, la Fondation 30 millions d'amis, la Fondation Bardot, mais c'est important justement que les politiques, que les personnalités donnent cet exemple sur les réseaux sociaux.
Oui, absolument. Je sais que Darmanin aime les animaux sincèrement, donc il y a des gens qui le taxent de faire ça pour des raisons qui ne sont pas sincères, mais en effet, c'est très bien qu'on puisse donner l'exemple comme ça, et tant mieux. Et il faudrait aussi que le gouvernement ait vraiment une volonté politique pour la protection animale et débloque des sommes autres que 20 000 euros pour venir en aide, parce qu'il y a tous ces refus dont je vous parle, ces 250 refuges partenaires que nous aidons, nous n'avons pas un sou d'aide du gouvernement. Donc c'est vraiment, ils survivent grâce à la générosité du public. Et je dois dire que le public est formidable parce qu'il nous soutient. Mais il faudrait aussi qu'il y ait ces gestes politiques pour améliorer le sort des animaux.
Bien sûr, ces 250 refuges aidés par la Fondation 30 millions d'amis, cette campagne Action Hiver Refuge pour aider ces 80 000 animaux en France qui vivent dans ces structures maltraitées, abandonnées. Appel à la générosité une fois de plus des Français, mais ils sont au rendez-vous et votre fondation aussi leur tient tellement à cœur. Merci beaucoup Réa Hutin, vous qui présidez la Fondation 30 millions d'amis, de nous avoir éclairé ce soir sur cette campagne.
Merci Wendy.
À bientôt.
Merci.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Une chanson dans la tête.
Votre rendez-vous musical chaque week-end avec notre spécialiste de la chanson française. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy et bonsoir à tous.
On passe d'un monde à l'autre. Chantal Goya hier et les chansons pour enfants. Un album 100% festif, on va dire, pour toute la famille. Que ce sera peut-être un remède anti-morosité. Vous nous parlez de Patrick Sébastien, il se lâche encore.
Et c'est ce soir, allez, 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 qu'on va se défouler, qu'on va tout envoyer bouler. Et c'est ce soir, allez, 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 qu'on va se défouler, qu'on va se libérer.
Eh oui, Wendy, malgré son éviction de la télévision par France 2, Patrick Sébastien reste l'une des personnalités préférées des Français. Et comme précisé par Philippe Vandel, justement, dans la matinale sur Europe 1 en début de semaine, plus de 955 000 téléspectateurs ont suivi son best-of en prime sur C8, se plaçant ainsi devant France 2 et son traditionnel Téléthon. Alors, dans cette période justement où tout rassemblement pour faire la fête est rigoureusement interdit, Wendy, avec ce nouvel album, Patrick Sébastien revient à ses fondamentaux et nous prouve une fois de plus qu'il est définitivement le roi de la fête,
à
avec notamment ce premier extrait.
Et on se lâche, et on s'arrache, y'a pas de pas, y'a pas de loi, y'a pas de sens. Et on se lâche, et on s'arrache, on peut faire n'importe quoi du moment qu'on se
bat. On dégoupille, c'est un single dans ce nouvel album. Quand on travaille pendant 10 ans avec Patrick Sébastien, on apprend vraiment à danser, à faire la fête, Fabien Lecoeuvre, comme
oui,
si
un peu
le cas
quand
vous.
Même. Oui, oui, quelque part. Oui, quelque part, c'est contagieux. Hein.
Bah oui, hein. On oublie que le temps passe vite, en tout cas. Il a commencé sa carrière il y a presque 50 ans.
Eh oui, 46 ans exactement. Et même si les jeunes générations le connaissent surtout comme animateur de télévision, et chanteur ou comédien. Tout a commencé pour lui, il faut le rappeler, par l'imitation très jeune. Oui. Patrick se faisait remarquer en classe en imitant Salvatore Adamo, Alain Barrière, Bourville et le général de Gaulle.
Eh bien, mon cher vieux pays, nous voici de nouveau face à face. Et ce n'est pas trop tôt, car je dois te l'avouer, mon cher vieux pays, tu commences à me les brouter menu.
Voilà, et puis c'est une rencontre surtout
très, très bonne
pour Patrick,
imitation,
excellente, qui plaisait beaucoup à Jacques Chirac d'ailleurs.
Oui,
alors c'est surtout une rencontre au début des années 70 avec la pétillante co-animatrice des émissions de Guy Luc, Sophie Darel, qui va accélérer le cours du destin du jeune Patrick Sébastien. Devenu très populaire grâce à la télévision, Sophie Darel se déplace alors régulièrement en province pour partir à la rencontre du public et pour trouver souvent les nouveaux talents de demain. Alors de passage à Brive-la-Gaillarde, elle rencontre alors un jeune garçon du coin, Patrick Bouteau, à la carrure de rugbyman, qui lui explique qu'il est imitateur et voudrait faire carrière dans le spectacle. Il lui fait alors sur place une saisissante imitation de Bourville. Sophie Darel est emballée et décide d'en parler à Guy Lux, qui lui propose alors de le faire venir dans l'émission.
Quand papa demanda à ma mère, voudrais-tu m'épouser à dada? Ma maman répondit pour lui plaire, on ira se marier à dada. Mais au lieu de dire oui devant le maire, tout ému, ils ont dit à dada. Après ça, aussitôt, ils allèrent, à midi, au dodo, à dada.
Ça nous manque les imitations, Patrick Sébastien. Il imite encore et toujours, Fabien Lecoeur?
Oui, de moins en moins, parce qu'effectivement, il se consacre à une autre forme de son métier, en tout cas, pour faire la fête.
En tout cas, à ce moment-là, il se retrouve sur le plateau 102 de la Maison de la Radio et il présente des sketchs à Guy Lux avec toujours la même Sophie Darel, sa marraine.
Exactement, Wendy. Même si toute l'équipe avait adoré la prestation du jeune Patrick Sébastien, Guy Lux, en revanche, n'avait pas aimé et avait dit à Sophie, tenez-vous bien, Wendy, ton imitateur, il ne fera jamais rien.
Oui, pour une fois, et pour le coup, il avait tort, Guy Lux. Hein.
Ben oui, parce que il faut rappeler qu'à l'époque, Thierry Leluron tenait le haut de l'affiche. Oui. Et son producteur, Paul Lederman, demandait à Guy Lux de ne pas recevoir le jeune Patrick Sébastien, avec la menace souterraine, bien sûr, de ne plus avoir sur son plateau Thierry Leluron. Alors malgré ça, Patrick n'a rien lâché. Bien au contraire, il s'est battu. Et grâce au directeur de La Main au Panier, un cabaret parisien, il monte sur scène pour la première fois le 14 novembre 1974, jour de ses 21 ans. Et rapidement, Wendy, il s'impose alors avec talent sur les plateaux de télévision. À partir de 1975, il enregistre ses premiers 45 tours d'imitation au disque Vogue et fait les premières parties des spectacles d'Hugo Frey, de Serge Lama, d'Annie Cordy, de Michel Sardou, avant de s'imposer lui-même en vedette à l'Olympia.
Pepito, mi corazón.
Pepiti, Pepito.
Tu as le regard d'un homme.
Pepiti, Pepito.
Ouais, Bourville restant évidemment son imitation préférée. Bon, dans les années 80, on se souvient de ses succès télévisés, ses émissions cartonnent.
Bah oui, la particularité de Patrick Sébastien dans ses imitations, c'était de prendre très naturellement la tête de ses victimes ou avec la complicité de sa maquilleuse Brigitte Delouis, de se faire dessiner la tête de ceux qui l'imitaient justement. Ce qui lui a donné l'idée de faire déguiser des célébrités en d'autres célébrités et inventer ainsi le concept de l'émission Carnaval diffusée sur TF1 de 1984 à 1986, puis Farandole sur la 5 de Berlusconi, brièvement de septembre 87 à janvier 88, avant de revenir sur TF1 avec Sébastien
C'est Fou,
de février 88 à juin 92, avant bien sûr de rejoindre France 2 en 1996.
Gombadou, en pleine gloire, Patrick Sébastien fait face à un drame terrible. Nous sommes en juillet 1990.
Eh oui, un terrible drame pour lequel il n'existe aucun mot, comme il le dit lui-même, la perte d'un enfant. Alors qu'il est en tournée dans le sud de la France avec son père, le dimanche 15 juillet 1990, Sébastien, le premier enfant de Patrick, est victime d'un accident de moto fatal. La terrible nouvelle bouleverse bien sûr la France entière et malgré la douleur, Patrick remonte sur scène le soir même, poussé par son ami le fantaisiste et chanteur Carlos l'année suivante. Comme pour exorciser son malheur, Patrick Sébastien écrira une chanson, chantée quand même, que Michel Sardou enregistrera sur son album et interprétera sur scène.
Un père qui va partir bientôt pour le grand voyage d'en haut, parce que les années en font trop, chantez quand même.
Alors, Pour l'anecdote, Wendy, à la disparition de la mère de Michel Sardou, la comédienne Jackie Sardou, le 2 avril 1998, Patrick Sébastien, qui faisait régulièrement travailler Jackie dans ses émissions, exprime au téléphone toute sa peine sur le répondeur de Michel Sardou. Et en retour, le chanteur écrit une lettre à son complice, Patrick Sébastien, et termine sa lettre par « Comme ma mère t'aimait comme un fils, comme tu l'aimais comme une mère, alors je t'embrasse comme un frère. »
Ouais, très beau, hein, ces mots de Michel Sardou pour Patrick Sébastien, à l'honneur dans une chanson dans la tête ce soir. Dans les années 90, Fabien Lecoeuvre, il connaît un immense succès planétaire avec son émission phare qui va durer 21 ans, le plus grand cabaret du monde.
Et oui, une émission qui a démarré le 26 décembre 1998 et s'est poursuivie jusqu'au 4 mai 2019. Inspiré par la piste aux étoiles, on va dire, programme des années 60, le principe de cette émission était de présenter des numéros exceptionnels d'artistes du monde entier. Clown, acrobate, magicien. Un concept que Patrick Sébastien reprendra d'ailleurs sur scène à partir du mois d'octobre 2021, on lui souhaite en tout cas. Et c'est d'ailleurs un numéro visuel de la compagnie barcelonaise de Jordi Bertrand qui inspire à Patrick Sébastien. Un de ses très grands succès qui deviendra aussi le générique
petit
de l'émission.
Bonhomme en mousse. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est comme la chanson.
Ah, petit bonhomme en mousse qui a ouvert la voie à des tas de succès pour faire la fête. Hein.
Et oui, depuis plus de 20 ans, Wendy et Patrick Sébastien enchaînent les succès pour faire la fête, comme la Fiesta en 98. Tourner les serviettes en 2000, évidemment.
Non, je t'ai plus.
Et sans oublier l'incontournable, les sardines en 2006.
Et hymne repopularisé par son copain Cyril Hanouna. Patrick Sébastien, vous avez été son complice dans les années bonheur, 14 ans, c'est ça ?
Absolument, sur France 2. Oui.
Voilà, il vous aime beaucoup, Patrick Sébastien, avec ce nouvel album, Sébastien se lâche. Vous pouvez le retrouver aussi sur C8, ce sera pour le réveillon, hein, oui. Le 31 décembre. Et puis la rediffusion de son émission The Fiesta, enregistrée à l'Olympia en 2014, dans laquelle vous chantez, Fabien ?
Eh oui, déguisé en C'est Jérôme.
Eh
oui,
eh ben, je
aux côtés
ça.
De Danny Boone, de Jeff Panaclock et de Patrick Bruel, bien sûr.
Merci beaucoup. Tout cela retrouvé sur Europe1.fr. Merci Fabien Lecoeuvre, à la semaine prochaine.
À très vite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Un peu avant 20h, j'accueille comme chaque dimanche Mathieu Béliard, celui qui vous informe dès demain matin 7h. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Wendy, bonsoir à toutes et à tous.
Avec des sujets importants que vous explorez sur le long cours avec vos invités dans le podcast Les Éclaireurs. Sujet crucial en l'espèce que celui que l'on évoque ce soir, très préoccupant, hein, c'est la paupérisation de nos sociétés avec cette crise. Et la question, eh bien, vous la posez à votre invité.
La pauvreté est-elle un problème pour l'économie ? On a posé la question, Wendy, à Élise Huillery, qui est une spécialiste de la pauvreté, qui est chercheuse dans le laboratoire créé par la prix Nobel Esther Duflo et qui, accessoirement au Conseil d'analyse économique, conseille le Premier ministre. On a posé la question sous ces termes-là parce qu'on le voit bien. On a un problème de pauvreté en France et un problème qui va s'aggraver. Toutes les associations nous le disent dans les mois à venir à cause de la crise du Covid. Mais un peu cyniquement, on se demande si cette pauvreté n'empêche pas tout simplement la reprise économique, si elle n'est pas tout simplement un problème au niveau macroéconomique pour toute notre société, y compris pour les classes moyennes et les classes les plus aisées.
Question d'importance donc que vous abordez avec votre invité. Petit extrait de ce podcast des Éclaireurs. Merci Mathieu.
Bonjour Élise Huillery.
Bonjour.
Alors c'est la question piège évidemment. On va démarrer par le piège. C'est quoi un pauvre ? C'est quoi la pauvreté ?
Alors, malheureusement, il y a plusieurs définitions. Alors, ce qu'ont les gens en tête en général, ça va être les gens qui sont vraiment sans domicile fixe, qui sont vraiment pas capables de subvenir à leurs besoins de base. Et ça, c'est très, très, très faible en France, hein, le pourcentage de pauvres. Alors, on a du mal à les dénombrer d'ailleurs, parce qu'ils sont par définition pas forcément recensés administrativement quelque part, mais c'est les gens qu'on voit à la rue, c'est les gens qui ont même pas de quoi se nourrir, se loger. En revanche, en France et en Europe en général, on a une définition de la pauvreté qui inclut beaucoup plus de monde. En fait, on va définir la pauvreté comme une distance par rapport au revenu moyen, médian en réalité, donc c'est-à-dire le revenu qui sépare la population en deux parties égales. Donc en France, c'est 1700 euros ce revenu médian. Et on va dire que quelqu'un est pauvre s'il vit avec moins de 60% de ce revenu médian, c'est-à-dire 1000 euros. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de quoi manger, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de quoi se nourrir ou se vêtir, ça veut dire qu'il est trop éloigné du reste de la société pour pouvoir vivre avec un standard équivalent. Donc en fait, ce qui est important, c'est que la définition de la pauvreté, c'est une mesure d'inégalité, c'est une mesure de distance sociale par rapport au reste de la société. Alors, je vais dire quelque chose qui peut peut-être choquer ou paraître très bizarre. C'est que, par exemple, imaginez que dans la société française, on multiplie par deux tous les revenus, il y aura autant de pauvres. Parce que ça ne changera absolument rien à l'écart entre le bas et le haut. En fait, il faut, pour qu'on ait plus de pauvreté en France, il faudrait que ceux qui sont en bas progressent plus que les autres.
On va rentrer dans le dur du sujet. On annonce l'arrivée de centaines de milliers de nouveaux pauvres dans les chiffres qui sont communiqués par des associations. Est-ce que déjà la crise que l'on connaît, celle liée au coronavirus, est-ce que c'est une crise économique comme une autre ?
Non, pas du tout. C'est une crise économique. Alors, on en a déjà eu dans l'histoire, des crises économiques dues à des pandémies, à des épidémies sanitaires. Mais les mesures qui ont été prises au niveau des sociétés ont jamais... Donc, les mesures de confinement, ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Parce que dans des époques plus anciennes, où on avait des épidémies sanitaires, il n'y avait pas un État fort, constitué, qui pouvait donner ce genre de règles que tout le monde respectait. Donc, c'est l'impact sur l'économie est effectivement sans précédent de ce fait. Après, pour faire le lien avec la pauvreté, comme vous dites, on voit, on pressent une énorme augmentation de la pauvreté. Et il se trouve que les mesures de confinement n'ont pas du tout le même effet selon la position sociale que les gens occupent dans la société. Les crises économiques ont souvent tendance à être beaucoup plus dures et à frapper beaucoup plus fort ceux qui sont déjà beaucoup plus fragiles économiquement, parce que ceux-là, ils sont vraiment, en général, avec des emplois plus précaires, voire pas de contrat de travail, ils sont en intérim, donc ils ont pas exactement le nombre de mois qu'il faut pour avoir droit au chômage, etc. Donc, ces gens qui sont plus fragiles, quand on est dans des périodes de crise économique, c'est eux qui sont frappés plus que les autres. Ceux qui ont des emplois stables, avec des CDI, ils vont être en chômage partiel, ils vont toucher 86% de leur salaire, ça ne va pas les faire descendre en dessous du seuil de pauvreté, ça va continuer à aller. Et on a même vu une forte augmentation de l'épargne pendant le confinement. Donc, la plupart des gens des classes moyennes supérieures et encore plus riches souffrent pas de la crise économique du fait de leur stabilité dans l'emploi, du fait de la protection sociale très forte en France et du fait qu'ils sont à des niveaux de revenus où même si on baisse un petit peu, ça va très bien.
Il s'est passé ces derniers mois quelque chose d'assez extraordinaire. On a nationalisé les salaires en France avec le chômage partiel. C'est complètement inattendu, surtout d'un président quand même présenté comme libéral.
C'est vrai. Alors, on a beaucoup appris de la crise de 2008-2009. C'est-à-dire que là, et ça a été quand même une réaction du gouvernement qu'on peut saluer, il n'y a pas eu d'hésitation pour venir en aide justement à cette économie qui était complètement à l'arrêt. Pourquoi je dis qu'on a beaucoup appris de 2008-2009, c'est qu'en 2008-2009, on n'a pas voulu faire le chômage partiel. Les Allemands l'avaient fait et on s'est rendu compte dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte à quel point on avait fait une erreur. C'est-à-dire que quand on ne vient pas en aide aux entreprises, aux salariés tout de suite, après, on met des années et des années à s'en remettre parce que du coup, les gens perdent leur emploi, les entreprises ferment. C'est extrêmement long de rallumer tous les moteurs. Donc, en 2009, on a été un des pays qui a mis le plus de temps à redémarrer. On a une reprise économique qui s'est fait vraiment à partir de 2014-2015. Et on s'est rendu compte que la politique d'austérité, c'est-à-dire de ne pas vouloir lâcher la bride sur les dépenses publiques, avait été une erreur énorme. Donc là, il ne fallait pas refaire cette erreur-là. Alors j'ai assisté, donc je fais partie du Conseil d'analyse économique. C'est un groupe d'économistes indépendants, mais qui conseille le gouvernement. Et en avril, au moment où il fallait prendre les décisions, j'ai été agréablement surprise que dans ce groupe d'économistes, alors qu'on est de tendance plus ou moins... libéral ou plus ou moins de gauche, il y a des dissensions entre nous. Là, il y avait une unanimité pour dire il faut soutenir massivement les entreprises, il faut faire le chômage partiel, donc rendre public tous les salaires, comme vous dites, sans aucune hésitation. Donc, il y a vraiment eu ce consensus et ça a aidé effectivement énormément la prise de décision de savoir que tous les économistes préconisaient la même chose, quelle que soit leur tendance plus ou moins libérale au départ, pour pas faire la même erreur que ce qu'on avait fait dans la crise précédente.
Les éclaireurs à retrouver sur europe1.fr. Il est 20h, merci d'avoir suivi ce 18-20, on se retrouve samedi prochain. Merci de votre fidélité, portez-vous bien, c'est l'heure de l'info.